Bonsoir. On va commencer. Voilà, rapidement, vous avez certainement lu le programme. Donc, c'est le marxisme comme outil des luttes écologiques, c'est-à-dire en quoi la philosophie matérialiste et l'analyse marxiste sont des outils pour les combats écologiques d'aujourd'hui, en quoi ils peuvent donner du sens et aussi un soutien à l'action. Et pas seulement dans la chambre à étudier comment ça se passe, mais comment ces outils-là peuvent être utilisés par les militants, hein, tous les guillemets que vous voulez, pour pouvoir bonifier leur travail, leur militantisme. Pour cela, on a invité donc Alain Bir, par ordre alphabétique, hein, bien sûr, Alain Bir, ancien enseignant en sociologie et militant, plutôt libertaire. Et puis Isabelle Garot, enseignante de philosophie, militante aussi, et qui participe notamment à la revue Contretemps. Donc je vais leur passer la parole. On va commencer par Alain Bir, et puis après c'est Isabelle Garot, c'est dans ce sens-là qu'on a décidé. Grosso modo, c'est une demi-heure chacun, et après on passe à un échange avec vous, toujours sous le même thème pour ceux qui nous suivent, c'est-à-dire une ou deux questions et les deux intervenants répondent. Voilà, je vous remercie.
Bien, merci à vous d'être là après une journée déjà éprouvante et un temps qui prête plutôt à s'égayer. Merci aux organisateurs de ce rassemblement tout à fait dynamique de nous avoir invités. Alors, ils nous ont donné une tâche un peu spécifique et délicate à Isabelle et moi de répondre à la question de savoir si, comment, dans quelle mesure on peut s'inspirer de Marx, plus largement du marxisme, pour éclairer des questions relatives à l'écologie, à la thématique, à la problématique écologique. Alors, il n'y a évidemment pas de manière uniforme de répondre à cette question, et vous verrez d'ailleurs que nos deux interventions sont. Bon, il y a un fond commun, mais qu'il y a des différences, des divergences peut-être même, qui vont se manifester, c'est tout à fait normal. Très longtemps, on a pensé que se tourner vers Marx pour éclairer les questions relatives à l'écologie n'avait pas grand sens. Au mieux, Marx aurait été indifférent à ces questions-là, comme la plupart de ses contemporains, ce qui est faux d'ailleurs, hein. Qu'au pire, on aurait eu affaire à un Marx tout à fait anti-écologiste. Qui référèrent de la révolution industrielle, du développement des forces productives, dont il reprochait finalement au capital de les brider, et que le socialisme aurait eu principalement pour but et effet de libérer les forces productives, donc la Marx enfin, qui aurait versé dans une espèce de productivisme industrialiste, etc. Et évidemment, ce qui s'est fait connaître comme marxisme par après pouvait facilement accréditer cette idée, puisque le marxisme, que ce soit sur le plan théorique, enfin le marxisme au sens large de la postérité de l'œuvre de Marx, que le marxisme, dans ses courants dominants au moins, en effet, s'est montré tout sauf écologiste. Les réalisations en particulier de ce qu'on a appelé à son époque le socialisme réellement existant ont été quelquefois sur le plan écologique tout à fait catastrophiques et n'ayant rien à envier, si l'on peut dire, aux dégâts écologiques infligés par le développement du capitalisme. On est heureusement revenu de cette appréciation à l'emporte-pièce de l'œuvre de Marx et on le doit à un certain nombre de, curieusement, un certain nombre en fait, d'universitaires états-uniens. Premier rang desquels dénommé John Bellamy Foster, mais il faut aussi citer Paul Burkett et Fred MacDuff, et puis en allemand aussi Almar Altschwager, entre autres. Hein. En particulier Foster, peut-être c'est lui qui a produit l'œuvre la plus significative sous ce rapport-là. Elle paraît en 2000, ça s'appelle Marx Ecology, l'économie de Marx. Il montre que tout au long, en fait, de son œuvre, Marx, depuis les œuvres de la jeunesse jusqu'aux œuvres de la maturité, c'est-à-dire jusqu'au Capital et tous les travaux qui ont accompagné et suivi même la rédaction du premier livre du Capital, Il y a un ensemble de thèmes, de prises de position de Marx qui forment un ensemble cohérent, continu et cohérent, et qui peuvent fournir un point de départ intéressant et original pour aborder des questions écologiques. Ce que je reprocherais pour ma part à l'entreprise de Foster, c'est que, alors qu'il déploie ça assez largement dans cet ouvrage, il a ensuite eu tendance à enfermer Marx dans une thématique assez spécifique qui se trouve effectivement chez Marx. Marx a été notamment, Marx était quelqu'un qui était très curieux de toutes les questions relatives à l'agronomie. Il lit des agronomes tout le long de sa vie. On n'imagine pas Marx faisant ça, mais c'est le fait. Et parmi les agronomes qui l'ont le plus marqué, il y a dénommé Justus von Liebig. Tout le monde connaît Liebig, les soupes, hein, n'est-ce pas? Mais c'est d'abord un agronome. Et qui reproche à l'agriculture de son temps, donc on est au milieu du 19e siècle, un peu plus passé, des années 1860, d'avoir en fait rompu le processus métabolique, c'est-à-dire le processus d'échange qui, dans les sociétés précapitalistes, permettait à l'agriculture de se nourrir, par exemple, d'elle-même, j'y reviendrai encore par après, se nourrir, par exemple, de la manière dont l'agriculture était tributaire et bénéficiaire des déchets animaux, les fumiers, les lisiers, etc., etc., et trouvait en quelque sorte un cycle qui permettait à la terre de recevoir en retour des déchets animaux et humains, ce qu'elle avait donné aux humains sous forme, évidemment, des principes, des nutriments incorporés dans les plantes. Foster appelait ça la faille métabolique. Il se reproduit dans le capitalisme une espèce de faille métabolique et il cultive cette thématique de la faille métabolique jusqu'à essayer d'y engouffrer toute la problématique écologique. Alors, je suivrai pour ma part une ligne qui est différente. Je ne pense pas qu'on ne puisse rien tirer de Marx, bien au contraire, mais sur ce terrain comme sur tous les autres, il me semble que. Si on a tout intérêt à partir de Marx et que son apport est absolument nécessaire, absolument fondamental, même je dirais que de pas partir de ça, c'est d'emblée se vouer, à mon sens, à l'échec. On ne peut pas non plus se contenter de rester à ce qu'il nous a dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver chez Marx une élaboration totale de la thématique et de la problématique logique. On peut s'inspirer de sa conceptualité, de sa problématique. Il y a un certain nombre de prises de position pour développer une perspective, une analyse originale, et ce que je vais essayer de le faire d'une manière restreinte. Je ne peux pas déployer tout ça. Si vous avez je dirais, patience, j'ai achevé en début d'année un ouvrage qui doit paraître, t'as encore une date, l'automne ou au début de l'année prochaine, où je reprends toute la problématique écologique d'un point de vue marxiste. Là, je reprendrai juste une image, et une image qui est surprenante, auquel vous ne vous attendez sans doute pas, c'est l'image du vampire. On va donc parler de vampirisme. Alors, vous verrez que c'est pas moi qui parle de vampirisme, c'est Marx. Et c'est encore plus étonnant. Bon. Alors, le vampire, vous le connaissez tous. On a tous rencontré des vampires, évidemment. Non? Si, vous allez voir que, en fait. Bon. Alors, le vampire, évidemment, est une figure qui existe dans de multiples cultures. En Europe, c'est une figure qui apparaît au XVIIIe siècle, surtout sur la base de relations en provenance de la Roumanie, de la Transylvanie plus précisément, et plus précisément encore de cette partie de la Transylvanie qu'on appelle le Maramureș. Mais c'est surtout la littérature romantique du XIXe siècle qui va en faire une figure de. Il y a des dizaines, si ce n'est des centaines d'œuvres littéraires en feuilleton, des romans, etc., qui tournent autour du thème du vampirisme au XIXe siècle. Vous connaissez tous la principale de ces œuvres, qui est faite très tardive par rapport à ce courant, qui paraît à la toute fin du XIXe siècle, l'œuvre de Bram Stoker qui s'appelle Dracula, qui paraît en 1897. Marx était un très grand lecteur de littérature en général, de littérature antique, de la littérature classique. C'est quelqu'un qui connaissait des œuvres, il connaissait des pièces de Shakespeare par cœur, il connaissait Dante sous le bout des doigts, etc. Et il lisait aussi souvent des romans, on dirait des romans de Hildegard, qui paraissaient à l'époque, il en existait déjà, dont des romans du vampire. Et il va se servir de la figure du vampire Vous allez voir d'une manière tout à fait particulière. Mais arrêtez-nous, nous, un moment sur cette figure du vampire. Qu'est-ce que c'est qu'un vampire? Un vampire, il présente deux caractéristiques. C'est un mort-vivant qui ne doit de pouvoir rester en vie que parce que il suce le sang d'êtres humains, hommes et femmes, c'est pas le sang qui est pour lui un véritable élixir de jouvence. C'est ce qui lui permet de rester en vie et même d'acquérir une sorte de vie éternelle. Et il lui faut des victimes en permanence. Il est d'autant mieux portant, pourrait-être bien portant, qu'il multiplie ses victimes. Mais en même temps, il a cette autre caractéristique que chaque fois qu'il vampirise une de ses victimes, il en fait un nouveau vampire. C'est-à-dire qu'il lui communique sa propre substance, enfin sa propre essence plus exactement. Pas qu'il s'approprie en quelque sorte sa victime d'une double manière, il lui pompe sa substance vitale et en même temps il se l'approprie en lui communiquant sa propre essence, en faisant quelque chose, un alter ego. Et c'est cette double figure du vampire que Marx va mobiliser pour analyser quelque chose qui n'a rien à voir avec ces histoires de vampires. Donc c'est évidemment un usage métaphorique que Marx va faire de cette figure du vampire, lorsqu'il analyse quelque chose de très sérieux pour lui, et que même, je dirais, le saint du saint, c'est lui-même qui dit ça, le saint du saint de la production capitaliste, c'est-à-dire la manière dont le capital s'approprie le procès de travail. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'il va chercher cette métaphore? Pourquoi il va chercher cette image? Mais pour ça, il faut rapidement rappeler ce qu'est le capital pour Marx. Le capital pour Marx, c'est un rapport social de production, c'est la définition classique, mais il en existe d'autres chez Marx. Et je partirai d'une autre définition qui court aussi dans le capital, l'œuvre, le capital. Marx définissait le capital comme ce qu'il appelle une valeur en procès. C'est-à-dire, je développe, une valeur qui se conserve et qui s'accroît, se dynamise constamment à travers un procès incessant de circulation de marchandises et d'argent. Reste à savoir ce qu'est la valeur pour Marx. Alors là, évidemment, on tombe, je suppose, sur des choses un peu plus connues. La valeur pour Marx, c'est sa substance de la valeur, c'est le travail. Plus exactement, le travail sous une forme particulière que Marx appelle le travail abstrait, c'est-à-dire sous la forme de dépenses de force de travail en général, quelle que soit la forme sous laquelle cette dépense a lieu. Toute forme de dépense, je dirais, de force de travail est susceptible de valoriser le capital. Donc, le capital, pour Marx, c'est un vampire en ce sens que, de par son essence, c'est ce que Marx appelle du travail mort, c'est-à-dire c'est le résultat d'un travail passé, d'un travail objectivé dans des marchandises, des biens de consommation ou des moyens de production. Mais c'est une substance qui ne peut se maintenir en vie qu'à la condition de pomper constamment du travail vivant. Le capital, c'est du travail mort qui se maintient en vie et qui se perpétue et qui s'accroît, prolifère grâce au fait qu'il s'approprie du travail vivant. Et il s'approprie du travail vivant d'une manière tout à fait vampirique, c'est-à-dire qu'il pompe la substance du travail vivant, la force de travail, en même temps qu'il va métamorphoser ce faisant ce travail vivant. Alors, vous me direz, c'est moi qui interprète ça, c'est moi qui ai lu Marx de cette manière. Alors, je n'affligerai pas d'autres citations de Marx. Voici une très courte. Vous verrez. Vous verrez, ça donne en même temps une bonne idée de quel style de Marx, qui est tout sauf un style austère. Alors, il dit, le capital a une unique pulsion vitale. Se valoriser, créer de la survaleur, pomper avec sa partie constante, les moyens de production, la plus grande masse possible de surtravail. Ce que Marx appelle le surtravail, c'est le travail au-delà du travail nécessaire à l'entretien du travailleur que le travailleur est amené à fournir. Donc, pomper la plus grande masse possible de surtravail, le capital est du travail mort qui ne s'anime qu'en suçant tel un vampire du travail vivant et qui est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage. Donc, vous voyez, j'invente rien. La métaphore vampirique est présente explicitement telle, et je prends en exemple là, il y en a des pages entières. Progression dans l'analyse. Comment le capital s'y prend-il pour vampiriser ainsi le travail? Alors Marx utilise pour rapporter le capital au travail, pour caractériser ce rapport du capital au travail dans le processus de production, il utilise trois termes. Indifféremment. Il parle de subordination ou soumission, de subsomption et d'appropriation. Pour ma part, je pense que le terme le plus, c'est pas celui que Marx utilise le plus souvent, mais c'est celui qui me paraît le plus propre. Le capital cherche à s'approprier le procès de travail. S'approprier une chose, ça peut s'entendre dans deux manières différentes. S'approprier une chose, c'est en prendre possession, s'en rendre maître, la dominer, la contrôler, la faire sienne. Mais justement, c'est la faire sienne aussi en un deuxième sens, c'est-à-dire la transformer de manière à ce qu'elle soit propre à l'usage qu'on veut en faire. Hein? Une chose appropriée à, c'est une chose qui est propre à l'usage que attend d'elle. Et cette appropriation, elle passe par deux phases chez Marx. Et une phase qu'il appelle formelle, une phase qu'il appelle réelle. En effet, le capital, évidemment, il naît historiquement, passant les circonstances de sa naissance, et il a d'abord affaire à des procès de travail, à des manières de travailler, dans les mines, dans l'agriculture, dans les manufactures, etc., etc., qui ont été constitués avant lui et sans lui. Et il doit se contenter, dans un premier temps, de cette manière-là de travailler. Et il s'est approprié marxiste de manière purement formelle, c'est-à-dire que il rend les producteurs dépendants par le fait qu'on a affaire ici à des producteurs qui ont été expropriés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus maîtres de leur moyen de travail, de leur moyen de production plus généralement, et qui doivent donc se plier à la loi, au commandement du capital. Mais de cette manière-là, ce que le capital peut faire du travail est très limité. Il peut en augmenter la durée, il peut en augmenter l'intensité, et c'est à peu près tout. Ce sont des moyens qui rencontrent rapidement des limites physiques. Bon, journée de travail n'ont que 24 heures au maximum, n'est-ce pas? La semaine de travail n'a que 7 jours. Et encore, dans ce cas-là, on rencontre des limites physiologiques, l'épuisement des travailleurs, et évidemment, on rencontre leur résistance à leur exploitation, leur lutte pour améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions d'emploi, leur rémunération, etc. Ce qui oblige le capital à passer à une forme d'appropriation que Marx appelle réelle, qui consiste en fait non plus à se contenter de prendre sous sa domination immédiate les manières de travailler qui existaient précédemment, mais à produire des manières de travailler qui lui soient propres, qui lui soient appropriées. Et ceci essentiellement dans le but de jouer sur une autre variable que la durée et l'intensité du travail, c'est la productivité du travail. C'est-à-dire pour accroître la quantité de produits, biens ou services, produits par un quantum déterminé de travail. Pour cela, Marx consacre toute une section du livre 1 du Capital à l'analyse des modalités. Il faut révolutionner tout le procès de travail, et ça passe par différentes étapes que Marx distingue: la coopération simple, la manufacture, l'industrie mécanique, et dans les gronderies qui sont son brouillon primitif, il en distingue, enfin, il anticipe même sur quelque chose qui n'existe absolument pas à son époque, qui est l'automation. Hein? Donc, en fait, il montre comment, à partir de là, le processus de travail se trouve complètement bouleversé, puisque on assiste à la formation, premier aspect de ce bouleversement, d'un procès de travail socialisé, c'est-à-dire d'un procès de travail dont le sujet n'est plus le travailleur individuel, mais un travailleur collectif qui se trouve organisé par le capital. On assiste d'autre part à une autonomisation des puissances du travail, du travailleur collectif, en un corps productif propre, le corps mécanique, automatique du système des machines, et on assiste, enfin, dernier élément de cette appropriation réelle, à une expropriation du travailleur individuel à l'intérieur de ce procès de travail. Le travailleur individuel perd de plus en plus la maîtrise de son propre procès de travail, se trouve exproprié, il l'a déjà à l'égard des moyens de production, qui ne sont plus les siens, mais il l'est de plus en plus à l'égard de sa propre activité, qui se résume, à la limite, par exemple, dans l'industrie mécanique ou l'industrie automatique, à être le servant ou le simple guide ou, à la limite, le simple surveillant d'un système de machines qui opère en dehors de lui. Et dans cette phase ultime, on a encore la métaphore du vampire, puisqu'on a la métaphore du corps mort du capital qui s'est entièrement subordonné les corps vivants des travailleurs. Alors vous me direz, c'est bien beau tout ça, et la nature. Parce que vous êtes venu entendre, non pas le bréviaire marxiste que je viens de vous réciter, mais évidemment autre chose. Je dirais, il suffit de faire un pas d'un côté, que curieusement Marx ne fait pas, ou à peine. Pourtant il nous dit, qu'est-ce que c'est que le procès de travail, quelle qu'en soit la forme historique? Mais c'est simplement le procès par lequel les êtres humains s'approprient la nature. S'approprient la nature pour la subordonner à leurs besoins, à leurs projets, à leurs désirs, etc. Donc, l'appropriation par le capital du travail humain dans le procès de travail est nécessairement aussi une appropriation à travers le procès de travail de la nature, de la nature qui est à la fois le cadre général du procès de travail, qui en est la condition générale et qui en est l'objet général. Donc en fait, et c'est l'hypothèse que j'aimerais développer à partir de maintenant, c'est de montrer comment l'analyse que Marx fait de l'appropriation par le capital du procès de travail peut se prolonger et, à la limite, s'appliquer à la manière dont, à travers cette appropriation du procès de travail, c'est en fait la nature que le capital s'approprie. Et on va pouvoir distinguer à partir de là aussi, je dirais, une appropriation formelle et une appropriation réelle. Une appropriation formelle, tout d'abord, je parlerai d'appropriation formelle de la nature par le capital, chaque fois que le capital peut se contenter ou doit se contenter parce qu'il n'a pas les moyens de le faire autrement ou parce qu'il ne le veut pas, c'est pas disons dans ses objectifs, les réalités naturelles telles qu'elles existent spontanément. Vous voyez donc là aussi le parallèle avec l'analyse du procès de travail où le capital commence d'abord à s'approprier des procès de travail tels qu'ils existent antérieurement à lui, tels qu'ils existent spontanément, tels que la nature nous les fournit immédiatement. Cela revient en fait pour le capital à traiter, vous allez voir quand là on retrouve la problématique, la thématique écologique immédiatement, ça revient en fait pour le capital à traiter la nature comme une espèce de stock ou de flux constant de ressources appropriables et qui sont considérés comme étant, inépuisables, que l'on peut renouveler, etc. À s'y approprier simplement de manière analytique, c'est-à-dire en les séparant du restant de la nature. Alors, c'est ce qui s'opère, par exemple, dans les industries extractives, c'est évident, mais c'est ce qui s'opère aussi dans l'agriculture, tant que l'agriculture se contente, par exemple, pour faire pousser des végétaux, des substances minérales que le sol contient. C'est une manière de prélèvement direct sur le sol des éléments minéraux qui constituent les nutriments des plantes, etc. On est donc ici dans une logique de pillage des ressources naturelles qui revient à considérer la nature comme un réservoir inépuisable de matériaux, d'énergie, d'informations, une logique de pillage que l'accumulation du capital, il faudra expliquer pourquoi le capital est contraint de s'accumuler, mais je laisse ça de côté pour l'instant, que la logique d'accumulation inévitable du capital va transformer évidemment de pillage en gaspillage. C'est-à-dire un gaspillage à travers les pratiques productivistes et les pratiques consuméristes qui sont inhérentes à l'accumulation du capital. Mais, autre aspect de cette appropriation formelle, le procès de travail, tout procès de travail est également producteur, je dirais, de déchets et de rejets. Par exemple, des émanations de toute nature, des résidus de frottement, des poussières, des fumées, des substances plus ou moins toxiques, des radiations, des bruits, etc. Et donc, on va aussi retrouver cette dimension-là dans l'appropriation formelle de la nature, puisque elle va se traduire par le rejet constant, l'augmentation constante des quantités de matériaux et d'énergie dégradée que le capital va rejeter dans la nature, et de réservoir de la nature va se constituer à ce moment-là un immense dépotoir. Un dépotoir, cette fois-ci, non pas inépuisable, mais insondable, puisqu'il est supposé, lui aussi, n'avoir aucune limite, être capable de, bah, simplement d'absorber tout ce qu'on rejette en elle, ou simplement, mieux encore, de le recycler pour en recréer des ressources. Et ça traduit évidemment par une pollution généralisée des milieux et des éléments. Alors, sous ce double rapport d'un réservoir inépuisable et d'un dépotoir insondable, le capital se trouve quand même limité dans cette appropriation formelle. Parce qu'il reste, sous ce rapport-là, complètement tributaire des substances, encore une fois, que la nature fournit directement. Et il est donc limité donc par la quantité de ces substances et les quantités qu'il tend à épuiser. Il est limité par la qualité de ces substances, des qualités qu'il tend à dégrader. Il est limité par la distribution spatiale de ces substances. Elles sont inégalement distribuées dans l'espace. Par exemple, certains filons miniers sont plus importants dans telle contrée que dans telle autre. Limité aussi dans la temporalité de la production naturelle de ces substances. Temporalités qui peuvent être saisonnières, annuelles, décennales, séculaires ou même au-delà, c'est pas? Et ça nuit évidemment à la nécessité dans laquelle se trouve le procès du capital d'être à la fois continu et régulier, le plus rapide possible et le plus prévisible possible. Ce sont là des contraintes qui vont amener le capital à devoir passer d'une appropriation purement formelle de la nature à une appropriation que j'appelle réelle. Oula.
Voilà.
Tempus fugit, comme disait les anciens. Bon, cette appropriation réelle, en quoi consiste-t-elle? En deux mots, mais elle consiste simplement non plus à se contenter des réalités naturelles que le capital trouve toutes faites, mais à produire littéralement des réalités artificielles, c'est-à-dire à produire la matérialité même des ressources naturelles qu'il exploite. Alors, je vais vous donner trois exemples rapidement, puisqu'on m'a signifié que mon temps était échu. Trois modalités de cette appropriation réelle. Elle consiste toujours à forcer la nature, d'abord à forcer la nature à ne pas produire ce qu'elle produit spontanément. Bon, l'agriculture précapitaliste, quelles sont ses caractéristiques? C'est en fait généralement une activité qui combine une polyculture vivrière avec l'élevage et l'artisanat. L'agriculture capitaliste, au contraire, fait éclater tout ça. Sépare la culture du sol de l'élevage et la culture du sol elle-même voue à la monoculture. Le résultat immédiat, c'est que, évidemment, elle se condamne à devoir ne pas bénéficier des intrants de l'élevage sous forme des fumiers, des lisiers, etc., et recourir à des engrais artificiels. Elle se condamne par la monoculture à favoriser le développement des adventices, c'est-à-dire mauvaises herbes et des parasites, et donc à recourir aux pesticides. Et l'élevage séparé évolue nécessairement vers cette forme, je dirais, dégénérée de l'élevage, qu'est l'élevage en stabulation ou l'élevage hors sol, qui groupe des centaines et même des milliers d'animaux avec les phénomènes de développement de maladies parmi elles et de zoonoses y compris, n'est-ce pas, qui suppose l'usage massif d'antibiotiques et les phénomènes d'antibiorésistance en amont. Première modalité. Deuxième modalité, c'est l'inverse. C'est forcer la nature à produire ce qu'elle ne produit pas spontanément. Alors, on peut prendre des exemples de matériaux. Je passe rapidement. Le béton. Les matériaux textiles, les matériaux plastiques, quand même un mot sur les matériaux plastiques. Hein. Matériaux plastiques, la production de matériaux plastiques a été multipliée par 200 entre 1950 et 2020. Sous cette période, on a produit 9,5 milliards de tonnes de matière plastique, c'est-à-dire plus qu'une tonne de matière plastique par être humain. Ça fait qu'on retrouve des matières plastiques partout. Hein, partout, y compris en nous. Pas, on les absorbe par contact direct, on les absorbe par inhalation, on les absorbe dans les aliments, etc., etc., avec les phénomènes sanitaires qui vont. Troisième matériau tout à fait artificiel, les semi-conducteurs, c'est-à-dire tout ce qui est l'industrie électronique, et vont fonder là-dessus. Je ne peux pas en dire davantage, sinon c'est un véritable dégât écologique au niveau de l'extraction et du traitement des minerais en question. Et évidemment, la même chose opère au niveau des matériaux vivants, c'est-à-dire avec les OGM, pas besoin de vous faire un dessin. Dernière modalité que j'évoquerai de cette appropriation réelle, c'est la reproduction artificielle de la nature après sa destruction. Alors, on peut prendre deux exemples. C'est la manière dont on substitue à des forêts primaires qui ont une très grande capacité d'auto-régénération permanente et présentent une très forte biodiversité, des forêts qui ne sont plus des forêts, qui n'ont plus de forêt que le nom, c'est-à-dire des plantations d'arbres. Monospécifique, où le bois est produit de manière à être le plus approprié à l'usage qu'on peut en faire. Par exemple, des bois mous, parce que ça traite plus facilement pour en faire de la pâte à papier. Deuxième exemple de ce type-là, les pratiques de compensation, enfin, ou de soi-disant compensation écologique, qui consiste à dire, bon, on détruit un site, mais c'est pas très grave, parce qu'on peut construire ailleurs et autre chose, un site de remplacement, alors qu'on dispose d'absolument aucune métrique. C'est-à-dire d'aucun système de mesure qui permet de considérer comme équivalent deux isotopes, pardon, deux écosystèmes, deux biotopes, merci. Et que, de toute façon, c'est fondamentalement nier le caractère irremplaçable de tout site naturel. Bon, je conclue sur le chapeau de roue pour vous dire que vous comprendrez à partir de là que la question écologique et la question sociale sont pour moi une seule et même question. C'est le recto et le verso d'une même question. Par conséquent, vouloir les séparer, vouloir les traiter séparément, ou vouloir simplement les unir en les hiérarchisant, ça n'a pas de sens. Je dirais. Hein? Je vous dirais le fin mot de la chose. Je pense que ces deux questions, la sociale et l'écologique, ne pourront se régler que de concert. Par la mise à mort du capital vampire, et cette mise à mort qui suppose en fait de planter un pieu, je reprends évidemment là tout, toute l'imagerie, dans le cœur même du capital, c'est-à-dire dans son appropriation privative des moyens sociaux de production, qui est le mécanisme même qui lui permet de s'approprier et le travail et la nature. Merci de votre attention.
Bon, ben, sans transition, je passe la parole à Isabelle.
Merci beaucoup. Alors, merci pour cette invitation. Merci pour ce rassemblement qui est vraiment, je trouve, un moment exceptionnel. Et c'est en un sens la vraie vie qui est ici. Et comme je voudrais parler de la vie, justement, bah, ça tombe bien. Voilà. Je vais aussi un peu parler du pieu à planter dans le vampire parce que j'aime bien l'image. L'idée, c'est, alors je vais reprendre et ça va être un petit peu en stéréo, hein, tout ça. Il y a des éléments que je vais reprendre. On est quand même fondamentalement d'accord. Moi, je vais aborder la question sous un angle peut-être un peu plus politique et stratégique par rapport aux luttes aujourd'hui, donc aux luttes sur le terrain de l'écologie et aux luttes sociales et aux autres luttes aussi et à la manière. Alors, j'ai pas de solution, bien évidemment, mais à l'urgence qu'il y a à réfléchir à leur coordination plus que jamais. Donc voilà, si on part des luttes elles-mêmes, on peut dire que les luttes écologiques aujourd'hui, elles existent, elles sont même vigoureuses, elles sont nombreuses, elles sont disséminées aussi, et puis parfois elles gagnent, mais souvent elles perdent. Hein, la 69 était peut-être un bon exemple de ça. Hein, on commence par penser qu'on a gagné, et puis l'autoroute revient aussi vite. Donc, on perçoit bien à quel point ces luttes sont urgentes, à quel point elles sont nécessaires, et en même temps, on perçoit aussi leurs limites, et ceux qui s'investissent dans ces luttes le perçoivent, je crois, aussi très très bien. Et ce qu'on perçoit tous, je crois, de plus en plus, ça crève les yeux, vraiment, c'est la trajectoire sur laquelle est le capitalisme de fin de règne, dans lequel on vit, malheureusement, avec là quelque chose qui est une manière de foncer dans le mur toujours plus vite, toujours tout droit et toujours de façon accélérée. Donc la question qu'on se pose toutes et tous, hein, je crois, c'est comment on arrête cette machine folle et est-ce qu'on peut le faire? Et en quoi la théorie peut nous aider? Alors non pas du tout donner les solutions, hein, je crois que le moment théorique et le moment pratique, faut bien les distinguer, mais il faut aussi les faire interagir et la compréhension de ces processus-là, je crois que c'est aussi une aide, non pas du tout une orientation précise, tactique, même stratégique pour l'action, mais c'est une aide à la réflexion et je crois qu'on a besoin de ça. Voilà, ce que je vais vous suggérer va un peu dans ce sens-là. Mon point de départ, parce qu'après tout, il y en est beaucoup question ici, et puis parce que foncer dans le mur, évidemment, ça évoque des murs bien réels. Peut-être d'abord un mur qui est celui des apartheids en train de se construire et qui sont présents partout dans le monde. Apartheid climatique aussi, hein, qui va de plus en plus exister et qui va distinguer des classes sociales capables de résister aux dégâts qu'elles produisent à très très haut niveau, et puis d'autres qui vont être et qui sont d'ores et déjà les victimes de cela. Donc les pauvres, les femmes en priorité, le sud global, bien évidemment. Voilà, on est dans une situation où ce mur-là est un mur de classe. Mais il y a d'autres murs, et je pense en particulier à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, bien évidemment, hein, qui est très présent dans notre rassemblement, parce que Gaza, ça me semble être un peu un condensé du capitalisme dans son devenir barbare, vraiment. Hein, quelque chose qui est à la fois un résumé, mais je crains malheureusement une préfiguration aussi de ce qui est en train de s'étendre. Or, il se trouve que en Palestine aujourd'hui, les dégâts humains sont considérables, ça s'appelle un génocide. Mais parallèlement, il y a un écocide. Parallèlement, la terre de Palestine est dévastée. Dévastée par les bombardements, dévastée par les colons qui arrachent les oliviers depuis maintenant des années et des années. Et donc là, on est aussi dans une situation où la destruction de l'humanité, la destruction de la nature, ça va de pair. Et ça va évidemment très très vite. Je m'appuie sur deux références qui me paraissent très utiles, très rapidement, des articles rédigé par une chercheuse libanaise qui s'appelle Farah Al-Attab, qui travaille pour le compte de Greenpeace, entre autres, et qui a mesuré il y a un an déjà, hein, donc les données que je vous indique là, c'est il y a un an, la situation. Elle dit on assiste en direct à un génocide en cours qui entraîne des conséquences désastreuses sur les écosystèmes. Elle dit les émissions immédiates de carbone dues à la guerre, hein, donc seulement celles-là, je dirais, sont stupéfiantes, avec une estimation moyenne de plus de 500 000 tonnes de dioxyde de carbone au cours des 120 premiers jours de la guerre. Très, très loin aujourd'hui des 120 premiers jours. Les bombardements intensifs ont entraîné des contaminations par métaux lourds, etc., etc. Hein, donc s'y ajoute le manque d'accès à l'eau, la dégradation des terres, le bétail qui meurt, les oliviers déracinés. Les systèmes d'installation de gestion des égouts, des eaux usées, des déchets solides se sont effondrés. Des milliers de tonnes de déchets s'accumulent dans des décharges informelles. Et puis, voilà, on connaît par ailleurs les massacres, les bombardements systématiques des hôpitaux. Tout ça fait absolument système. Une autre référence qui me paraît extrêmement utile pour parler de ces questions-là, c'est Andreas Malm, qui est très connu, hein, je pense que voilà, vous en avez entendu parler. Et Andreas Malm, qui a écrit un très beau livre qui est disponible ici, d'ailleurs, qui s'appelle Pour la Terre et pour la Palestine, Pour la Palestine et pour la Terre, pardon. Développe aussi cette même approche. Et il insiste, et je partirai de cette remarque qu'il fait, qui me paraît très précieuse, sur le fait que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, c'est quelque chose qui est proprement illimité. Un massacre sans limite. Et on voit bien à quel point, pour l'instant, on n'arrive pas, hein, à empêcher ce massacre de se poursuivre et d'être toujours plus dévastateur. Cette question des limites, c'est aussi une question qui est propre au capitalisme, et tu en as parlé, hein, c'est le caractère illimité, dans la logique, hein, pas dans les faits, puisque c'est pas possible, mais dans la logique du capitalisme, le caractère illimité de ce processus de valorisation de la valeur, d'accumulation du capital, et du coup de dévastation, tu l'as dit aussi, des deux sources de toute richesse pour Marx, que sont les hommes et la nature. Et les deux vont véritablement de pair. Et Marx insiste, alors c'est peut-être une différence entre nous, je crois que Marx insiste vraiment sur ce parallèle et l'approfondit. Hein, la destruction des êtres humains par l'exploitation et la destruction de la nature par l'exploitation de la nature, on peut aussi employer ce terme, sont deux processus qui vont de pair, qui sont sans limite tendanciellement, mais qui s'affrontent à des limites réelles, qui sont les limites de la nature et sa capacité à se régénérer, et les limites de l'humanité elle-même aussi, qui, sous l'emprise du capitalisme, sont directement concernés par ces difficultés maintenant à se régénérer et à se reproduire. Donc j'y viendrai un petit peu plus tard, c'est les thématiques de la reproduction qui sont si importantes dans les mouvements, dans les divers mouvements et les mobilisations qui sont en cours. Donc voilà, ce double aspect me paraît poser des questions neuves, en même temps anciennes, mais des questions neuves du point de vue stratégique, qui sont des questions qui sont en grande partie devant nous, qui sont affrontées par toutes les mobilisations en cours, les mobilisations écologistes, mais aussi, et il faut là aussi voir l'unité de tout cela, hein, les mobilisations féministes, les mobilisations antiracistes, les mobilisations antifascistes, et mobilisation des luttes LGBT, etc., antivalidistes. Voilà. Tout ça fait partie de ce grand mouvement qui lutte pour la même chose, au fond, hein, et qui lutte contre ce capitalisme de la démesure et ce capitalisme de la destruction et du saccage systématique de la nature et de l'humanité. Alors, que fait Marx là-dedans? Évidemment, et je suis d'accord avec toi, Marx, c'est les années 1840, pour ce qui est des premières œuvres, et puis il meurt dans les années 1880. Donc c'est loin de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais en un sens, c'est pas si loin. Et j'ai été frappée en lisant le livre d'Andreas Malm, dont je viens de vous parler, sur le fait que lui commence la chronologie en 1840. Donc on est pile à l'époque des œuvres du jeune Marx. Et il montre que la Palestine est vraiment un lieu crucial à ce moment-là, où va se répandre à la fois alors une logique coloniale, une logique dévastatrice et donc aujourd'hui une logique exterminatrice, déjà le cas à l'époque, aujourd'hui on le voit encore mieux, et va se répandre parallèlement aussi l'utilisation de la vapeur comme moyen pour avoir des armées performantes, en l'occurrence il s'agit de l'armée britannique, qui va avoir un avantage très considérable en utilisant pour bombarder des navires à vapeur qui se déplacent extrêmement vite et qui vont évidemment permettre la colonisation de la Palestine avec tous les enjeux politiques que je résume pas ici, je vous renvoie au livre de Malm. Ce qui m'intéresse là, et je vais aller un petit peu vite forcément, c'est la façon dont parallèlement et sans du tout qu'il y ait de lien entre cette histoire, en tout cas pas de lien direct entre ce à quoi réfléchit le jeune Marx à la même époque et puis cette situation-là, c'est néanmoins un croisement assez étonnant et puis une réflexion que Marx va poursuivre par la suite. Donc je vous propose en deux temps, ce qui est d'abord la première approche du jeune Marx, on dit souvent comme ça, hein, Marx de la maturité, pas dire le vieux Marx, c'est un peu triste, donc jeune Marx et puis le Marx de la maturité, sur cette question écologique. Le premier temps, parfois, il a été extrêmement valorisé pour dire « Ah ben là, on a un Marx écologiste et puis on a un Marx qui va ensuite tomber dans l'économicisme, dans la fascination pour la production, qui va oublier ses intuitions jeunesse. » Alors, je ne crois pas du tout. Je crois en fait qu'il y a bien sûr des différences et une évolution, mais qu'il y a aussi une continuité. Alors, qu'on dit le jeune Marx, on est en Allemagne dans les années 1840 et Marx réfléchit pour des raisons politiques. Et je crois que c'est important cet aspect-là. Pour des raisons politiques, il réfléchit à ce qu'il a sous les yeux, aux transformations qu'il est en train de voir dans cette partie du monde qui n'est pas aux avant-postes du capitalisme pourtant, qui est l'Allemagne, plus exactement la Prusse et les territoires qu'elle a d'ailleurs annexés, donc la Rhénanie en l'occurrence. Et il essaye de voir comment, dans ce monde rural, les transformations affectent aussi le rapport à la nature. Donc c'est la première émergence du terme « nature » sous la plume de Marx. Et là, je trouve qu'il y a pour nous aujourd'hui des choses qui sont précieuses dans cette réflexion du jeune Marx sur la nature. Je précise un peu l'idée. Ce que Marx dit, alors il y a une formule qui est assez célèbre, il dit « notre rapport à la nature, c'est notre rapport à nous-mêmes, les uns aux autres, c'est un rapport social ». Il dira la même chose des femmes d'ailleurs, que le rapport aux femmes et le rapport des hommes entre eux, c'est la même chose, que tout ça finalement appartient à la même dynamique. Concernant la nature, ce qui me paraît être extrêmement intéressant dans son approche, c'est qu'il dit que la nature, ce qui importe dans notre compréhension de la nature, c'est de comprendre notre rapport à la nature, c'est-à-dire pas la nature comme une chose en soi qui serait séparée de nous et qu'il faudrait sauvegarder, protéger, laisser telle qu'elle, ça n'a pas de sens, mais comme une relation à la nature qui est une relation symbiotique ou pas, qui est une relation métabolique justement, il emploiera le terme beaucoup plus tard, mais voilà, son idée déjà c'est de dire que la relation à la nature est une relation transformatrice de cette nature et que c'est ce rapport-là qui est intéressant. Si on fait de la politique, c'est pas la nature toute seule à préserver telle qu'elle, c'est notre relation à la nature rendant viable à la fois l'humanité et la nature elle-même. Donc on est vraiment, même si Marx n'en prend pas le terme, on est vraiment sur les questions de reproduction, de régénération, à la fois du monde humain et du monde naturel. Et dans le cadre de cette réflexion, il dit, prononce une formule qui est restée assez célèbre aussi, peut-être parce qu'elle est énigmatique, pardon, elle est un petit peu opaque, et en même temps elle est très riche. Il dit à un moment donné, la nature, c'est le corps non organique, inorganique comme vous voulez, de l'être humain. Alors là, il y a eu beaucoup de commentaires, et certains ont dit, corps non organique, ça veut dire la nature, c'est mon corps, c'est le prolongement de mon corps, donc je fais ce que je veux. Mon corps, ma vie, voilà. Donc c'est à moi, je fais ce que je veux avec la nature. Pas du tout ce que dit Marx. Si on dit texte et qu'on réinsère la formule dans des textes qui en expliquent le sens, corps non organique, cela veut dire pour lui que nous sommes en interaction en tant qu'être humain permanente avec cette nature dont nous sommes fondamentalement issus. Et Marx, à cette époque-là, il est un peu dans le flou par rapport à ce qu'est le capitalisme, mais il est très clair sur ce que c'est que le matérialisme. Et il a une conviction dont il ne démordra jamais, c'est que nous, êtres humains, nous sommes les produits de l'histoire de la nature. Quand il découvrira Darwin, il sera absolument ravi de voir que là, voilà, on a une vraie base scientifique pour dire ça. Mais il le pense même avant Darwin, et il considère que nous sommes, par certains aspects, des êtres naturels. Nous appartenons à la nature. Donc la nature et nous, il y a une forme d'unité. Et corps non organique, ça veut dire ça. Ça veut dire que nous sommes dans une nature qui est transformée par nous et qui, en retour, d'ailleurs, par les transformations que nous lui imposons, nous transforme nous. Hein, nous sommes voilà dans cette double relation avec cette nature. Et c'est cela pour lui qui est à prendre en compte. Alors, j'actualise un peu à la hache, mais il me semble que ça, c'est très intéressant par rapport à des courants écologistes, ou je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça d'ailleurs, mais qui sont un peu néo-romantiques. Sauver la nature, éventuellement d'ailleurs opposer nature et humanité, considérer que le problème, ça serait quelque chose comme l'anthropocène, par exemple, que l'être humain, par définition, serait nuisible, etc., etc. Et il y a toute une littérature pour devenir ours, devenir fleuve, devenir renard. C'est très joli, très poétique. Mais je pense que stratégiquement, ça ne fait pas énormément avancer les choses. Et surtout, ça produit une espèce de regard très fétichiste sur une nature qu'on suppose avoir été à un moment donné intacte et avec laquelle on aimerait être en fusion. Voilà, vieux rêve romantique de retrouver la terre-mère, Gaïa, etc. Alors, pourquoi pas, et ça donne des choses, à certains égards, tout à fait sympathiques. Mais je crois que ça empêche aussi de politiser la question de la nature en ne la voyant pas comme quelque chose qui est une relation à nous, une relation maintenant qui est définitivement une relation à l'être humain. Il n'y a plus de nature intacte, il n'y a pas de nature qui n'ait été modifiée par l'homme. C'est évidemment avec cette nature transformée que nous avons à faire. Et dire cela, ce n'est pas pour Marx dire non plus que la nature est une construction sociale. Hein, je pense aux thématiques, je ne sais pas si vous lisez un peu d'Escola, La Tour, ce genre de choses, qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, et qui font de la nature un concept, alors qui refuse, hein, d'Escola refuse d'opposer nature et culture, et juge que toute la culture occidentale, enfin toute la tradition occidentale a procédé désastreusement à cette opposition. Et lui considère que la nature, c'est finalement quelque chose qu'on a construit, hein, qui est une construction conceptuelle qui pose problème. Par rapport à ça, Marx dit quelque chose d'autre. Il considère que la nature, c'est une réalité matérielle, mais une réalité traversée de vie sociale, de transformation sociale, réalité sociale de part en part. En même temps, cette nature, elle a ses propres lois. Elle continue de les avoir. Quand on pollue, quand on dégrade, quand on détruit l'environnement, on produit des effets massifs sur la nature. On produit des tempêtes majeures, on produit des incendies, on transforme les forêts en savanes, etc., etc. Là, actuellement, il y a une perspective, Andreas Malm en parle, hein, qui serait sur la trajectoire actuelle de voir l'Amazonie non seulement disparaître sous les brûlis, mais disparaître à cause de la transformation rapide en cours, disparaître en savane. On imagine les effets, c'est le poumon de la Terre, c'est l'un des poumons de la Terre, imagine les effets. Là, c'est vraiment cet effet en retour qui fait que cette nature dévastée nous revient dans la figure, bien évidemment. Donc cette analyse que fait le jeune Marx, il n'a pas idée de la pertinence que ça va avoir, mais je pense que la pertinence, nous, on la mesure bien, à savoir que notre impact sur la nature, c'est un impact directement sur l'humanité, et que ces questions-là sont complètement indissociables. Alors il ne va pas, dans un premier temps, beaucoup plus loin que cette intuition-là, mais cette intuition lui donne, je crois, hein, un guide, une espèce de piste de recherche pour analyser parallèlement, et il va le faire en deux temps plutôt séparés d'ailleurs, ce qui se passe du côté du capitalisme, dont il voit les premiers éléments se mettre en place, en tout cas dans la partie de l'Allemagne où il habite, plus avancé évidemment en Angleterre. Et puis, il va revenir sur la question de la nature, comme cela a été dit par Alain tout à l'heure. Alors, mon deuxième point, c'est la suite de cette réflexion qui va donner lieu Alors on pourrait presque dire d'ailleurs en deux temps, Marx laisse un peu de côté cette question de la nature et de l'environnement. D'ailleurs, il ne parle pas d'environnement, parce que c'est une interaction, ce n'est pas un environnement, quelque chose de bien plus profond que ça. Laisse un peu de côté cette question dans un premier temps, et il est vrai qu'on trouve sous la plume de Marx dans les années 50, jusque dans les années 60, des passages qui sont d'une tonalité un peu productiviste, on peut dire. Voilà. Appelant au développement des forces productives et pensant que voilà, les forces productives vont, à un moment donné, amener le capitalisme à préparer sa propre disparition. À partir des années 60, c'est-à-dire à peu près à partir de la rédaction du Capital, il s'aperçoit qu'en fait, ce qui se passe est plus compliqué que cela, que les forces productives capitalistes sont des forces productives qui sont spécifiquement capitalistes, hein, tu en as parlé, je ne reviens pas là-dessus, qui sont destructrices de la nature et qui absorbent ce travail humain, qu'en même temps elles contribuent aussi à détruire par des formes d'exploitation renforcées qui atteignent de la même manière, en tout cas qui atteignent de façon, disons, parallèle, les êtres humains, soumis à ce que Marx appelle l'aliénation, hein, d'un bout à l'autre de son œuvre, on trouve cette thématique-là. Donc destruction évidemment intérieure des individus qui travaillent, des salariés. Alors du prolétariat, dit Marx, mais prolétariat aujourd'hui, c'est les salariés, la grande masse d'entre eux en tout cas, hein, avec une confrontation au travail qui est l'expérience aussi au quotidien, je ne sais pas vous, mais de ce sentiment d'être vidé de sa substance, littéralement. Et du côté de la nature, un processus qui est aussi parallèle à celui-là, qui est aussi assez semblable à celui-là, un saccage, hein, un pillage. Dans les années 60, ce que Marx ajoute à ces éléments, à ces deux éléments, saccage des êtres humains et saccage de la nature, c'est le colonialisme, qui se situe sur les deux plans et dont il n'avait pas perçu jusque-là l'importance. Ça va l'amener vraiment, je crois, à une transformation de sa vision et une transformation et de son regard sur la nature et de son regard sur le travail. Parce que dans la colonisation, ce qui apparaît, c'est d'abord une dimension carrément exterminatrice. Hein. On tue les Indiens, on s'approprie leurs terres. Il y a un assez beau texte de Deleuze qui parle des Indiens et de la Palestine. Voilà. Et c'est très juste. Hein. Là, on est aussi dans cette phase exterminatrice, quand les gens sur place empêchent le capital de faire ses affaires, empêchent les puissants et les impérialistes de faire leurs affaires, on les tue, tout simplement. Et puis de l'autre côté, un saccage de la nature avec une indifférence totale à ce qui est la capacité de la nature à se régénérer. Et tous les ans, il y a ce calendrier terrifiant, hein, du dernier jour, où la nature peut encore se régénérer et ce jour avance de plus en plus. Et donc on voit à quel point on atteint aujourd'hui en son cœur les capacités de régénération. Donc c'est bien la thématique de la vie, là. Ça fait un peu métaphysique la vie, mais en fait, Marx l'aborde tout le temps en la spécifiant à chaque fois, vie humaine, vie sociale, vie naturelle. Voilà, mais c'est bien la thématique de la vie. Et ce qui fait le lien entre ces différentes thématiques, c'est cette question de la capacité à se reproduire, cette capacité de reproduction. Alors, de ce point de vue-là, le capitalisme est une réalité sociale étrange, un rapport social, hein, comme tu l'as rappelé, qui est étrange, parce que lui aussi cherche à se reproduire. Et il ne peut se reproduire qu'en s'élargissant en permanence. Mais une fois qu'il a fait le tour du monde, ce qui est le cas dès l'époque de Marx, hein, plusieurs phases de mondialisation, déjà une à son époque, une fois qu'il a fait le tour de la planète, il se heurte à lui-même. Hein, Marx dit que le principal obstacle du capitalisme, c'est le capital lui-même, en fait. Au bout d'un moment, il tourne en rond. Voilà. Il faut accentuer, il va être dans l'obligation d'accentuer encore plus la pression sur les gens qui travaillent, de faire travailler plus, d'aliéner davantage. Il suffit de regarder ce que sont aujourd'hui les ateliers du monde, l'Inde et la Chine, et les conditions de travail qui règnent là-bas, qui sont celles du 19e, en pire à certains égards. Ce capitalisme va être obligé aussi de dévaster de plus en plus la nature, hein, d'y trouver des ressources à court terme, de se préoccuper en rien de ce qui est les capacités de reproduction. Et là, on tombe sur un thème qui, à mon avis, est très central pour les luttes d'aujourd'hui, qui est la question de la reproduction. Donc, question de la reproduction de la nature, mais aussi question de la reproduction sociale. Ce que Marx découvre, et je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que sur plein de points, sur celui-là notamment, il n'avance pas vraiment sur ce sujet. Il mentionne les choses et il ne va pas creuser beaucoup plus, aussi parce qu'il meurt, c'est ballot, mais voilà, à un moment donné, il a ce projet de créer, enfin, de travailler davantage sur les questions de la nature, et puis voilà. Il meurt à ce moment-là. Mais entre-temps, il a donné des outils de réflexion, je crois, sur les questions de reproduction sociale qui sont au cœur aujourd'hui de nos luttes. Et là, je pense qu'on ne peut pas dissocier les luttes écologistes, les luttes féministes notamment. Non pas seulement parce que les dégradations de la nature frappent en premier lieu les femmes et les femmes pauvres, mais parce que les questions du féminisme, c'est les questions aussi du travail féminin, du travail domestique non rémunéré, qui est un travail de reproduction de la force humaine de travail. Ce sont en grande majorité, mais en écrasante majorité, les femmes qui font ce travail-là. Déjà, donner naissance à des enfants. Pas rien quand même, les élever, de nourrir la famille, bref, de procéder à ces tâches qui sont des tâches non rémunérées. Alors, vous allez me dire, pour une part, maintenant, elles sont rémunérées, elles sont marchandisées. C'est vrai, on n'est pas obligé de faire la cuisine, on peut acheter des plats préparés. Mais il y a une bonne partie de ce travail qui reste à l'intérieur de la famille et qui est un travail gratuit, non rémunéré, tout à fait essentiel pour nous, les êtres humains, parce que sans les mères, on ne serait pas là, et tout à fait essentiel pour le capitalisme lui-même, parce que ça produit des travailleurs. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la destruction des services publics, elle entre tout à fait dans cette logique de saccage de la nature et de saccage des forces humaines de production et de reproduction. Ce qui se passe très clairement, c'est quand on détruit les services publics, on relègue du côté des femmes des travaux qui étaient des tâches qui étaient prises en charge par ces services publics. Les crèches, il n'y en a plus, vous gardez vos enfants vous-même. L'hôpital, c'est l'horreur. Donc, les personnes âgées, vous allez vous en occuper. Toutes ces tâches-là, elles incombent dans leur écrasante majorité à des femmes. Et c'est exactement la même logique de prédation et de saccage des vies qui est à l'œuvre derrière. De saccage des vies humaines, là, en l'occurrence. Alors, Marx dit pas tout ce que je dis là, mais il met le doigt sur cette question-là, et Engels aussi d'ailleurs, en articulant les questions de production et de reproduction et en montrant qu'elles sont complètement indissociables. Et que là, on est face à une aberration. Et là, c'est peut-être aussi une des différences que j'aurai avec toi, Alain, on en reparlera. C'est que ce qui intéresse Marx dans ce schéma d'ensemble, hein, on est allé très vite, mais ce qui intéresse Marx, c'est, je crois, les contradictions à l'intérieur de tout ça et les contradictions qui ouvrent des brèches politiques. Parce que sinon, non seulement on est mal, mais en plus, on sait plus quoi faire, on est désespéré. Alors, je ne crois pas. Et je crois qu'en fait, justement, ce qu'on voit aujourd'hui, qui sont des luttes, encore une fois, insuffisantes, dispersées, on patine tous, on est dans des organisations ou pas, on cherche dans les milieux associatifs, syndicaux, politiques, voilà, on fait plein de choses, mais on n'a pas le rapport de force avec la puissance d'en face et ses capacités destructrices. Sur ces questions de reproduction, ces questions qui concernent la nature, le travail domestique, toutes les questions que j'ai énumérées, là, je crois qu'on a un angle de lutte extrêmement précieux, mais à une condition, en tout cas c'était l'idée de Marx et j'avoue que je la partage, à une condition qui est à un moment donné de voir que dans ces luttes locales, les enjeux sont globaux. Alors, je ne suis pas la première à dire ça, c'est d'une banalité à pleurer, mais comment, qu'est-ce qu'on fait stratégiquement avec ça? Comment est-ce qu'on arrive à un moment donné à construire du global avec du local? Comment est-ce qu'on arrive à pas forcément faire converger les luttes. À un moment, c'était très à la mode, cette idée-là. L'idée de convergence ou l'idée d'intersectionnalité, c'est un petit peu trop géométrique. C'est-à-dire, il faut tout ramener à l'unité. Je crois pas. Je crois que les mouvements autonomes, que les antiracistes, ils s'organisent, que les femmes, elles s'organisent, que c'est bien d'avoir à un moment donné des formes d'autonomie dans les luttes. C'est extrêmement précieux parce qu'on a aussi vécu dans le mouvement ouvrier cette tendance à dire vous inquiétez pas, les luttes de classe, ça va tout résoudre. Hein. Une fois qu'on aura gagné, ne serait-ce que les élections, hein, bon, donc je pense qu'il faut un peu plus que ça pour gagner le rapport social, mais une fois qu'on aura gagné, vous inquiétez pas, l'écologie, ça va aller, les féministes, ça va aller, LGBT, il n'y aura plus de soucis. Non. Il y a garder aussi l'autonomie de ces luttes-là, qui sont porteuses aussi d'une énergie propre, qui sont porteuses de perspectives sociales inventives. Mais en même temps, avoir en tête le fait que raccorder tout ça ne va pas de soi. Que nous fédérer de façon souple, non autoritaire, mais en ayant conscience qu'on est en train de se battre exactement pour les mêmes choses, à savoir notre survie, hein, juste ça quand même. C'est extrêmement important. Et je crois que chez Marx, il y a des intuitions de ça, qu'il y a des débuts de réflexion. Il est au 19e, il n'est pas à notre époque, mais qu'il y a des débuts de réflexion sur des formes de coordination. Il avait beaucoup d'intérêt, par exemple, pour les sociétés traditionnelles, avec l'idée. Vous connaissez peut-être ces textes à Vera Sassoulitch, hein, vraiment à la fin de sa vie, une correspondance qui montre que pour lui, dans les sociétés traditionnelles, il y avait des formes qu'on peut peut-être récupérer avec plein d'autres conditions par ailleurs, mais des formes qui permettraient peut-être de réactiver, voilà, des liens sociaux qui sont porteurs aussi de résistance. Cette idée-là, je crois qu'aujourd'hui, elle est aussi au cœur de nos luttes. Comment on trouve des formes de résistance qui soient des formes de résistance sur de l'acquis qui existe véritablement? Après tout, notre rassemblement, c'est un exemple de ça. L'exemple aussi d'une continuité historique par rapport à ce qu'on peut appeler la résistance, même si les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Mais voilà, ces formes de résistance, elles se logent dans les contradictions du capitalisme, dans son incapacité à s'emparer complètement du monde qui est le nôtre, tout simplement parce que, je ne prends qu'un exemple, le travail reproductif, par exemple, le travail de reproduction qu'effectuent donc en majorité les femmes et que faisaient les services publics, ils font de moins en moins. Ce travail-là, il met au cœur des individus des aspirations très fortes à la liberté, à l'indépendance, à l'autonomie, à l'intelligence, au temps libre, à l'envie de créer, à l'envie de s'aimer, à l'envie, voilà, à vivre, ça s'appelle. Et de l'autre côté, la formation, je suis prof, hein, c'est on fabrique des salariés. On apprend aux gens la docilité. On apprend juste ce qu'il faut, et de plus en plus l'école, c'est ça, juste des compétences, pas plus. Ce seront monnayables dans les situations catastrophiques avec un patronat qui a quasiment tout pouvoir. Voilà, ça, ça forme une contradiction qui est très forte, et moi j'avoue que face aux gens, aux jeunes que j'ai en face de moi, je trouve qu'il y a de l'espoir par rapport à ces aspirations très fortes qu'ils ont, et la situation qui les attend, et dont ils savent très bien qu'elle les attend, qui est ces conditions de travail qui sont extrêmement dures, extrêmement violentes, de précarisation. Certains travaillent hein, déjà de plus en plus dans les lycées maintenant. Les élèves travaillent, en plus de leur présence au lycée. Les études supérieures, vous savez ce que c'est devenu dans ce pays. C'est que le début, privatisation générale. Je crois que là, il y a des ressorts aussi de mobilisation, encore une fois, à condition à un moment donné d'arriver à politiser tout ça et d'arriver à avoir une vision un petit peu globale de cette articulation. Alors les discours suffisent pas, les luttes éparses suffisent pas, raccorder les deux, ça peut aider, et je pense que c'est sur ce terrain-là que les luttes aujourd'hui commencent à se développer et à porter le fer hein, dans le cœur du vampire. Voilà, on revient. J'ai évidemment pas de solution, hein. Moi je suis militante comme pas mal de gens ici, je me pose les mêmes questions que vous, mais j'ai vraiment l'impression là qu'il y a un besoin de réflexion, qu'il y a un besoin de théorie, qu'il y a un besoin de partage aussi, de vivre ensemble, et qu'en face de nous on a un capitalisme qui est très intersectionnel hein, pour le coup. Lui, il raccorde tout. Hein. La convergence, c'est dans le capitalisme qu'elle est là. Nous, on n'est pas tout à fait à la hauteur de ça. Et en même temps, je crois qu'on a des atouts qui sont ces contradictions et leur politisation pour arriver à le faire. Donc, voilà, je pense qu'on n'est pas mort. J'espère, en tout cas.
On n'est pas mort, mais le Bernard de la maturité que je suis devenu est très inquiet par l'absence de micro-baladeur. Très, très inquiet. C'est plus que c'était, c'est RHA, la question de l'organisation, il y a un peu de laisser aller. Il faut tout contrôler maintenant. Donc, je vais demander, on va passer au même système qu'avant, sauf que le... Oui. Attends. Vas-y. Ah d'accord. Alors les grosses voix, elles peuvent parler de loin. Les petites voix, il y a le micro qui est là. On peut le rapprocher un petit peu, mais voilà. Donc on va poser trois questions. On va prendre trois questions et les intervenants répondront. Et puis après, on reprendra trois questions. D'accord ? Mais tu as une grosse voix, tu peux y aller. Ah d'accord.
Si je hurle pas.
Ouais, merci. Non, mais déjà merci à la tribune. C'était très intéressant l'introduction que vous avez faite. Moi, je suis militant au NPA révolutionnaire, donc du coup, on se revendique comme marxiste, nous, donc voilà, communiste révolutionnaire et du coup marxiste. J'étais un petit peu frustré du fait qu'au début de ton intervention, Isabelle, tu disais que tu allais revenir sur les possibilités de stratégie pour contrer cette catastrophe écologique, et je suis resté un peu sur ma faim, tu as mentionné, et je trouve que c'est intéressant, le fait que, par exemple, les luttes comme la 69 ont été victorieuses, mais en fait non, parce qu'au final, quand on a un État qui est au service de la bourgeoisie et de ses profits, en fait, ils font ce qu'ils veulent, et puis ça boucle un peu sur cette métaphore du vampire que je vais reprendre, où en fait, moi, ce que j'ai l'impression de comprendre de ce qu'on dit, c'est on va pas pouvoir résoudre la crise climatique sans arracher, en fait, le pouvoir politique de organiser la production qu'a la bourgeoisie. Et du coup, il y a un terme en parlant de Marx et d'écologie que j'ai pas entendu et que pour moi et qui me paraît assez essentiel, parce que pour moi Marx, en fait, il apporte une solution à cette question-là. C'est la question de l'économie planifiée sous le contrôle des travailleurs et des travailleuses. C'est le fait d'avoir justement une classe ouvrière qui prend conscience du rôle qu'elle a et du fait qu'elle produit tout dans cette société, et qui, en fait, un jour se dit qu'elle peut arracher ce pouvoir des mains de la bourgeoisie et en fait sortir justement de cette aliénation du travail et utiliser le travail productif qu'elle fait pour son propre compte et de produire ce dont la société a besoin et pas un surplus de biens qui serait au service du profit d'une classe dominante. Et ça, en fait, nous, en tout cas, on n'a pas de solution non plus miracle, parce que sinon, ce serait le communisme aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais on va tenter d'en proposer une quand même. C'est le fait, on a le fait de militer pour des grèves actives où justement les salariés, les travailleurs et les travailleuses mettent fin à la production et ensuite finissent par reprendre le travail, mais sous la direction, en fait, des comités de grève, sous leur propre direction, et de prendre conscience justement de cette capacité qu'a la classe ouvrière de pouvoir en fait produire elle ce qu'elle décide et qu'elle n'est pas au service en fait du patronat, c'est un début de prise de conscience en fait de ce pouvoir-là et de pouvoir justement avoir un mouvement insurrectionnel qui mettrait fin en fait au capitalisme. Et en fait c'est de ça qu'on a besoin, en tout cas ça je pense qu'on est d'accord là-dessus, pour mettre fin à la crise écologique, c'est la fin du capitalisme. Et du coup
5 minutes, hein.
Ça marche. Et du coup pour formuler ça dans une question, moi ce que vu que justement ça a pas été abordé, la question que je vous pose c'est est-ce que du coup il y a une stratégie pour vous qui pourrait se passer justement d'avoir un état en fait aujourd'hui dans lequel qu'on pourrait réformer, qui pourrait mettre fin à la crise écologique, qui pourrait mettre fin à l'exploitation aussi, vous l'avez dit, des femmes et des personnes racisées qui subissent la crise climatique, ou est-ce que à un moment donné c'est la solution qu'on a devant nous, est-ce qu'on va pouvoir se passer justement d'arracher le pouvoir des mains des gens qui décident aujourd'hui de comment la production est organisée?
On va passer la parole à Manu. On prendra une troisième question si.
Bonjour.
Vas-y.
Ouais, merci. Merci pour votre intervention. Moi, je voulais savoir si, au niveau, malgré toutes les urgences qu'on a, toute la diversité des luttes, est-ce que une des priorités qui devrait peut-être s'inscrire dans une forme d'intemporalité, ce serait pas de se concentrer, peut-être en parallèle des engagements qu'on peut avoir, sur reconstruire une conscience de classe? Du coup, une classe à la fois qui soit consciente de ses enjeux sociaux et écologiques. Et pour ça, il y a déjà un outil qui me semble moi très pertinent et qui demande à être approprié par les travailleurs et les travailleuses, c'est l'outil syndical, autogestionnaire. Et un autre qui me semble beaucoup moins approprié, c'est celui des communes. Donc, qui est pour le coup peut-être un mode d'action qui est très peu développé, peut-être sauf par Murray Bookchin, mais qui peut se faire aussi assez, va dire sans avoir tous des bagages théoriques en amont. C'est localement, dans des petites communes, redonner le pouvoir aux habitants, utiliser son mandat d'élu local pour faire en sorte que les habitants décident, qu'il y ait des vrais débats, de la réappropriation des communs, de la politisation locale et du vivre ensemble. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et sachant qu'il y aura une discussion à 21h au camping tout à l'heure sur ce sujet-là. Voilà. Merci.
Bon, on va répondre à ces deux questions, puis vous poserez les d'autres après en fonction. Hein? Allez-y. Alain.
Bon, s'agissant de la première question, je crois que c'est assez clair. Bon, évidemment, il aurait fallu suivre la métaphore complète. J'ai bien dit que, je suis revenu là-dessus, il n'y aura pas de solution de la question sociale et pas de solution de la question écologique sans planter un pieu dans le cœur du capital. Et j'ai rappelé que le cœur du capital, c'est son appropriation des moyens sociaux de production. Donc, ça signifie clairement qu'il n'y aura pas de solution de la question sociale ou de la question écologique sans que on exproprie les expropriateurs, hein, c'est-à-dire qu'on s'approprie collectivement les moyens de production, c'est-à-dire les moyens par lesquels nous déterminerons ce qui doit être produit, Selon quelles priorités, dans quelles conditions, par qui et pour qui? Bon. La planification, à partir de là, évidemment, s'impose comme une nécessité. Bon. Mais encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'il s'agit de planifier. S'il s'agit de planifier, et comment planifier, mais restons sur simplement la question que s'agit de planifier. S'il s'agit de planifier, je dirais, une croissance débridée de toute forme de production, je dirais, évidemment, on est à côté de la plaque. C'est-à-dire que la planification est un moyen, mais ne nous donne pas la fin. La fin étant ce qu'il s'agira de déterminer collectivement, c'est-à-dire au terme d'un processus démocratique généralisé, sur les finalités que l'on se donne, à quoi allons-nous faire servir les moyens de production dès lors que nous nous sommes réappropriés. Ça signifie concrètement qu'il faudra, par exemple, déterminer quelles sont les productions que l'on va abandonner immédiatement. Il est clair qu'il y a toute une série de productions inutiles et nuisibles, les productions d'armement, les productions de luxe, qu'il s'agit purement et simplement tout ce qui relève bien évidemment de l'industrie de la publicité, c'est-à-dire et de façon générale tout ce qui n'a que pour fonction d'accélérer la circulation du capital, donc le marketing, le packaging et tout ça, on le fait disparaître. Ce qui réduit le temps de travail social considérablement. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas pour autant du chômage massif, hein, parce que tout le monde aura à s'employer, parce que simultanément, par exemple, il faudra aussi faire disparaître complètement l'agro-business. Mais faire disparaître complètement l'agro-business, ça signifie aussi revenir à des formes de production agricole nettement moins productives. C'est-à-dire qu'ils vont devoir employer beaucoup plus de gens. Donc il va falloir envisager, par exemple, que les emplois qu'on a supprimés dans l'armement ou dans tout ce que je viens d'énumérer, mais on va devoir les créer dans l'agriculture pour revenir à des formes de production agricole moins intensives en travail mort et beaucoup plus intensives en travail vivant. Donc ce sont ces questions-là qu'on aura à se poser. On voit donc que la planification, ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas ce qui répond à la question. Que produit-on? C'est le moyen d'organiser ce que l'on a décidé de produire. C'est pas la même chose du tout. Sur la question des communes, je dirais, je n'ai pas pour ma part grand-chose à dire. Je sais pas, Isabelle, si tu veux te prononcer là-dessus, je dirais pourquoi pas. Je pense que fondamentalement, la perspective révolutionnaire passe par la construction de contre-pouvoirs. C'est dans ma tradition, je dirais, communiste libertaire, la perspective que je défends. Et une commune peut être un contre-pouvoir. C'est-à-dire, tel que tu l'as décrit, c'est-à-dire, rendre la capacité au niveau d'une commune, aux citoyens de cette commune, de décider, par exemple, de ce qu'est l'usage de ce que sont les équipements collectifs que l'on se propose de conserver ou de construire, de ce que sont les services publics que l'on se propose de conserver ou de construire, tel que, en tout cas, ça puisse relever de la commune en question, c'est évident que c'est extrêmement important. Parce que c'est une manière, je dirais, c'est une pédagogie de masse en même temps, c'est une manière d'apprendre justement à décider ensemble de ce qu'il s'agit de conserver ou de ce qu'il s'agit au contraire de bannir parmi l'usage des moyens de production communs. Alors pourquoi pas, je dirais, pourquoi pas, je dirais, j'y vois pas pour ma part, j'en ferai pas une panacée, mais je vois pas pourquoi on le bannirait. Hein.
Oui, moi je suis d'accord avec ça. J'aime bien. Pardon. Chacun ça. Quelques remarques. Bien sûr, c'est frustrant, les questions stratégiques, on n'y répond jamais tout à fait, mais je crois que les questions stratégiques, on y répond ensemble ou pas du tout. C'est des choses qui se construisent vraiment ensemble sur le terrain, c'est compliqué, et voilà, c'est comme ça qu'on avance, et là, on n'a pas de solution clé en main, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, parce que quand on a cru les avoir, ça s'est très mal passé. Alors juste quelques remarques qui sont sans doute pas suffisamment stratégiques, mais un, sur les questions de planification. Oui, tout à fait. Alors, Marx parle dans certains ouvrages d'économie administrée. Bon, ça peut évoquer des mauvais souvenirs, hein, cette affaire-là, quand même. Plan quinquennaux et compagnie. Planification, oui, mais démocratique. Je crois que c'est extrêmement important d'insister là-dessus et que récupérer les outils de production, c'est aussi récupérer des outils qui ont été en profondeur formatés par le capitalisme. Hein. Tu as parlé de subsomption réelle, voilà, c'est à ça qu'on va avoir à faire. Comment on fait pour récupérer ces outils-là? Comment on enclenche ce processus? C'est là-dessus qu'on bute. Je crois que sur les idées en matière de planification, il y en a beaucoup. Certaines sont sans doute à jeter, d'autres sont beaucoup plus intéressantes. Il y a eu un énorme travail de réflexion depuis les années 20 quand même, hein, du 20e siècle, si ce n'est avant, sur les questions de planification. Voilà. Mais la question, c'est comment on enclenche un processus qui permet à un moment donné de restituer l'organisation de la société à ceux-là même qui la font marcher, donc les gens qui travaillent, qui produisent et qui reproduisent. Il y a un truc qui s'appelle l'État, hein, qui s'est intercalé entre la société et justement son organisation et la réflexion sur son organisation. Comment on fait pour s'emparer de l'appareil d'État? Et Marx, au cours de sa réflexion, commence par dire « on va s'emparer de l'appareil d'État, on va le faire fonctionner pour le compte des opprimés et des dominés ». Et puis ensuite, il se dit « non, il ne faut pas faire ça, il a vu 48, il a vu la Commune de Paris, il faut absolument abolir l'État ». Ce qui, a priori, est une thématique plutôt libertaire et anarchiste que marxiste, hein, quand on a un peu ce schéma en tête. Or, en réalité, pour Marx, l'État, c'est vraiment une forme de capture, comme dans les autres secteurs, une forme de capture par le capitalisme de la capacité que nous avons à nous auto-organiser. Comment on récupère cette capacité d'auto-organisation? Moi, je ne crois pas au communalisme à cause de ça. Je pense que c'est une très bonne idée, mais je pense que s'emparer du pouvoir, qu'il soit communal ou à l'échelle de l'État, ça nous met toujours face à une difficulté. C'est qu'à l'arrivée, c'est nous qui sommes piégés par le pouvoir que nous croyons avoir conquis. C'est pas nous qui prenons l'État, c'est l'État qui nous prend. Ça s'est passé 10 000 fois quand même, cette histoire. C'est l'histoire des révolutions du XXe siècle. Elle est quand même assez terrible. On ne veut pas dire qu'il faut renoncer, mais je crois que si on réfléchit en termes de stratégie, il faut avoir bien conscience que les luttes que nous menons, elles ont à prendre en compte ces deux dimensions-là, je dirais à la base des luttes sociales, hein, dont il a été question, des mobilisations, mais aussi en haut, cette structure de l'État. Donc, les élections, voilà, c'est important. J'ai fait campagne l'an dernier à fond et je suis très pour ça. Mais il faut sortir aussi à un moment donné de cette logique électorale. Et il faut sortir aussi d'une logique basiste ou qui serait uniquement fondée sur les luttes sociales. Comment on fait? J'ai absolument pas la réponse, mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à ça. Comment prendre le pouvoir? Et le camarade qui est intervenu au début l'a très bien dit. Hein, prendre le pouvoir, c'est pas seulement le pouvoir politique, c'est pas seulement le pouvoir de l'État, c'est le pouvoir sur la production elle-même, dans le travail, sur nos conditions de travail. Et ça, pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire. Et cette réflexion, déjà, si on la mettait au premier plan dans nos organisations, je pense que ce serait un atout extrêmement important. Juste encore un point là-dessus, Marx dit à un moment donné dans Le Capital que la discussion sur la réduction du temps de travail est une discussion qui lui semble plus politique et plus féconde que les grandes chartes des droits de l'homme, dit-il. Et là, c'est aussi sur le terrain du travail syndical qu'il y a des enjeux politiques aujourd'hui qui sont extrêmement importants. On est dans une époque où je crois que le clivage entre dimension associative, syndicale, politique n'existe plus. On est directement sur du politique à chaque fois. Et là, il y a vraiment à faire ce travail de réflexion en commun. Donc, bien évidemment, j'ai pas la réponse. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on se confronte à des situations qui sont d'une très grande urgence. Et sur le papier, faire des projets de planification, c'est très bien, mais c'est là maintenant que ça se passe. On fait comment? Alors l'insurrection, je veux bien, je ne crois pas qu'on soit dans une situation insurrectionnelle en France, je ne crois pas du tout. Comment on arrive à fédérer, à convaincre, à renverser la vapeur? Je crois plus à ça, mais c'est un travail de fourmi, il faut qu'on y soit tous et tout le temps, hein, avec les voisins, avec la famille, avec les gens autour de nous. Voilà. Moi, je milite en Bretagne, hein, essentiellement, dans ce qui reste du NFP, ça fonctionne bien, on est contents d'être entre nous, on fait un travail voilà, de fourmis, on a une petite gazette, on va voir les gens, on fait du porte-à-porte, on va sur les marchés, participe à des tas d'initiatives locales. Bah, je crois que la stratégie, elle est un peu là. Ça suffit pas, mais elle est un peu là quand même.
D'autres questions? Non?
Il y a la question de ces Bernard Arnault qui parle en échelle à l'économiste. Par exemple, dans une proposition que je trouve aujourd'hui pas suffisamment portée au niveau des sphères politiques, c'est l'extension du domaine de la sécurité sociale, notamment dans le domaine alimentaire, qui est une manière de s'interroger sur les moyens de production. Et je veux dire collectivement que ce n'est pas une introduction qui peut faire l'objet d'un soutien en termes d'alimentation, tout en redonnant le pouvoir aux organisations salariales, aux syndicats, qui pourraient, justement, comme ça a été fait pour la sécurité sociale et la santé, définir quels sont les axes à soutenir en termes de production alimentaire. Et l'autre, la personne qui a intervenu tout à l'heure a parlé de communes, et je crois qu'elle peut aussi parler de communs, c'est la redéfinition collective des espaces communs qui échappent en termes d'appropriation capitalistique. Je pense que c'était plutôt dans cette logique, alors comme je l'ai compris comme ça, c'est comment définir collectivement des espaces dont on dirait que ils ne veulent pas, en tout cas, être, ça a été dit par un empire, appropriés, en termes de prédation, par les intérêts capitalistes. On en a eu, et on y souffle assez rapidement, c'est les océans, c'est parti, l'espace, c'est parti, mais on pourra en définir plein d'autres. Ça peut être aussi des communs à l'échelle communale où on définit ensemble le fait que ces espaces-là, ils ne nous appartiennent pas, ils n'appartiennent à personne. C'est-à-dire appartenir à quelqu'un qui serait plus vertueux que quelqu'un d'autre, c'est ne pas appartenir à un espace de prédation, c'est-à-dire une accaparation par quelques-uns des ressources qui sont celles de cet espace-là. Vous voyez, il me semble qu'il y a des notions comme ça, et effectivement, par rapport au bonsoir, auquel moi j'ai du mal à croire, compte tenu du rapport de force qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés, et ça à l'échelle mondiale, j'ai l'impression que l'inventaire du déjà la communiste. Et puis le fait de revisiter toutes ces notions-là et de faire vraiment une espèce de panorama complet pourrait être peut-être plus fructueux, alors que même que par moment on se les ignore nous-mêmes. Quoi. On a l'impression que voilà, la sécurité sociale elle est là.
Et dans son périmètre. Voilà, c'est plutôt une invitation à la réflexion sur cette posée.
Oui.
Alain, Isabelle, vous voulez répondre? Engager une...
Oui, pour réagir rapidement à ce qu'il dit, c'est très intéressant, bien sûr, hein, toutes ces perspectives, mais je crois aussi qu'on est à l'étape d'après, quand on parle en termes de commun ou en termes de sécurité sociale et alimentaire, c'est l'étape après, à un moment donné, de construction du rapport de force. Pour construire la sécurité sociale, il y a quand même eu une guerre mondiale, une résistance, un rapport de force qui a été extrêmement coûteux et... Ce rapport de force, aujourd'hui, on l'a pas. Donc, je vois pas comment on pourrait, sur un terrain juridique, par exemple, envisager quelque chose comme une sanctuarisation qui me paraît pas être une solution. Alors, ça va peut-être vous paraître maximaliste, ce que je vais dire, mais c'est vraiment la question de l'abolition du capitalisme sur laquelle on est aujourd'hui. Et cette abolition, c'est bien sûr énorme dit comme ça, mais je crois qu'il faut qu'on trouve les voies à un moment donné pour se confronter à ce qui est un mode de production, un mode de vie sociale, une marchandisation de l'ensemble de la réalité et des activités humaines et de la nature elle-même. Et ensuite, oui, si on peut mettre sur pied du commun, si on peut mettre sur pied un système de sécurité sociale, très bien, mais je crois pas, je vois mal en quoi ça pourrait être le préalable alors qu'on n'a pas la force pour mettre ça sur pied. Ça serait déjà le cas, sinon. Mon problème est en amont de ça.
Du coup, il est aussi quand même dans cette réflexion sur ce qu'on a à un moment donné, le
changement. Je ne crois pas, mais ça serait une longue discussion.
Je prends une carte. Et que Frio se résumerait à l'étape d'après.
Parce que les solutions qu'il propose sont des solutions qui me semblent centrées sur le terrain juridique, justement, sur les questions des rapports de propriété, et pas suffisamment sur la question des formes de mobilisation. Quand Friot revisite la question de la sécurité sociale, par exemple, il en fait une force d'emblée révolutionnaire et du communisme déjà là. Quand on regarde ce qu'a été l'histoire du CNR, la mise en place de la sécurité sociale, en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est beaucoup plus décevant aussi d'un certain point de vue. C'est-à-dire que cette mise en place de la sécurité sociale, elle n'a pas été énormément soutenue ni par les syndicats, ni par le mouvement ouvrier. La CGT, mais il y a eu un travail très solitaire de Croizat. Il y a eu un travail très solitaire de Croizat qui s'est retrouvé tout ça est très documenté, hein. Il y a des travaux écrits là-dessus qui sont très précis. Ça n'a pas été un engouement général en France pour la sécurité sociale. Pas du tout, pas du tout. Et il y a l'idée qu'à un moment donné, comme on a gagné sur le nazisme, on va pouvoir mettre en place toutes sortes d'institutions émancipatrices. Donc ça, c'est vrai dans un contexte qui est très particulier, justement, qui est celui de cette victoire-là. Aujourd'hui, penser que la sécurité sociale serait encore cette espèce de matrice dans laquelle il y aurait un ferment révolutionnaire qui est présent, je ne crois pas du tout. Je crois aussi que ces institutions, aujourd'hui, elles sont détruites de l'intérieur par le néolibéralisme, que les formes même de gestion de la santé, que les services publics tels qu'on les connaît sont des services qui sont contaminés aussi par les logiques néolibérales. En tant que prof, je pense vraiment que l'école, par exemple, est très traversée aussi par les logiques capitalistes et que avoir l'idée d'une extension des services publics tels qu'ils sont, que ça serait du déjà là, non, c'est du contradictoire. Et ça, Friot, je trouve qu'il n'insiste pas suffisamment sur la dimension de la contradiction et justement sur cette question des mobilisations, de la construction des mobilisations. Voilà, c'est pour aller vite, disons, le désaccord que j'aurais avec lui. Après, je trouve son travail très précieux parce qu'il a ce grand mérite qui est d'ouvrir des perspectives, de donner à réfléchir, de proposer aussi à discuter toutes ces hypothèses-là. Et ça c'est formidable. Là-dessus, absolument.
Claude.
Oui.
Il y a Alain qui veut répondre.
Un moment, Claude. Juste un moment.
Excuse-moi.
Je voudrais ajouter un élément à ce qu'on est en train de mettre en commun, c'est-à-dire des éléments, disons, qui essayent de répondre à la question où se trouve le levier, hein, où se trouve le levier qui permet d'enclencher le processus révolutionnaire. Il y en a un qui me paraît nous pendre au nez, et il n'est pas des plus faciles ni des plus agréables, c'est que on est, ça a été évoqué, Isabelle l'a encore rappelé dans son intervention, on est dans une phase du capitalisme qui est hyper destructeur et quelque part partie aussi autodestructeur. La catastrophe écologique dans laquelle il nous a... parce que je parle, c'est en termes de catastrophe. Cette catastrophe écologique, on est en train d'y rentrer en plein pied. Évidemment, tout le monde pense au changement climatique, mais il y en a bien d'autres aspects, dont les atteintes à la biodiversité, prendre que ça. Ça va être notre quotidien de plus en plus. Et ça va prendre des aspects catastrophiques pour nous. C'est-à-dire que on va être, par exemple, de plus en plus confronté à des phénomènes de canicule, de sécheresse, ou au contraire d'épisodes météorologiques extrêmes en termes de tempêtes, de précipitations, etc., etc. Et ça va se traduire par des dégâts massifs. Des dégâts massifs dont on seront directement les victimes. Et quand j'ai dit « nous », évidemment, c'est un « nous » à fractionner selon les appartenances de classe. Il y aura, à la limite, les divisions entre classes sociales se redéfiniront par la capacité à se mettre à l'abri ou non, et plus ou moins par rapport à ces dégâts-là. Et il y a moyen de mettre, de tirer parti stratégiquement de cette situation-là, c'est à condition de s'y préparer. C'est-à-dire, quelles sont nos priorités par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on définit déjà aujourd'hui comme priorité en matière de lutte contre les effets du réchauffement climatique? Il faut engager qu'est-ce qu'on met comme objectif prioritaire en matière de lutte contre l'appauvrissement drastique de la biodiversité auquel on assiste. Parce que c'est autour de ces enjeux-là, de toute façon, ces questions vont se poser à nous. Si on ne se prépare pas à y faire face, évidemment, elles vont nous télescoper et on sera à nouveau en situation d'impuissance. Si au contraire, on s'y prépare, on aura peut-être là des moyens de levier, parce qu'en face, ils s'en sont incapables. En face, il n'y a aucune stratégie. Quand je dis en face, c'est-à-dire du côté du capital, c'est-à-dire du côté de la bourgeoisie comme classe dominante, elle n'a aucune stratégie en la matière, sinon d'aller jusqu'au bout de la catastrophe. Et après elle, le déluge. C'est tout. Donc c'est à nous, quelque part, de nous préparer à ça aussi.
Donc, excusez-moi. Oui, je pense que le problème fondamental auquel on est confronté, c'est celui de comment organiser l'auto-organisation des classes exploitées ou opprimées, quoi. Hein. Et la voix du parti qui connaît l'avenir et qui sait ce que sera la société radieuse étant, je pense, définitivement fermée, c'est la question de comment aider cette auto-organisation. Donc, je voudrais donner simplement une réflexion concrète à partir de ce qui se passe dans les usines aujourd'hui de l'automobile et de l'armement. Hein. J'ai longuement documenté les ravages sur le système productif français de la priorisation donnée à l'industrie d'armement, mais on est aujourd'hui à un stade supplémentaire pour les raisons que j'ai rapidement expliquées, à savoir on va monter en puissance encore dans les dépenses d'armement, à maintenant mobiliser les entreprises d'automobiles pour faire de l'armement, alors souvent au niveau des composants, enfin, je passe sur les détails, j'y reviens dans un article qui viendra très prochainement. Les délégués syndicaux, les élus du personnel, il y en a deux que je cite. L'un nous dit, donc ils se reconvertissent dans l'armement. Hein. Nous, on pensait pas faire des bombes, hein, on préférerait plutôt faire du bonheur pour les gens. Et l'autre qui dit, une entreprise Forge de Bretagne, qui fabriquait donc des composants pour Renault, qui les a sabotés, donc je passe sur les détails. Nous, c'était ou fabriquer de l'armement ou être au chômage. Donc, pour donner une réflexion concrète, c'est évidemment pas l'écologie, même si l'armement, vous le savez sans doute, ça représente 5,5% des dépenses de CO2 mondiales. Hein. Pour donner une dimension concrète, et parce que je crois, ça a été dit, que c'est à partir du travail, donc effectivement la situation d'exploité, qu'on peut reconstruire cette auto-organisation, on a là un chantier qui s'ouvre pour nous, qui s'ouvre pour les organisations syndicales, qui s'ouvre pour les mouvements écologistes, bien sûr, à savoir comment faire surgir ce que disent les travailleurs eux-mêmes, ce sont les élus du personnel, mais je pense qu'ils reflètent la réalité, c'est-à-dire on n'est pas fait pour fabriquer des bombes, mais on n'a pas d'autre avenir. Est-ce que là, on a une possibilité concrète, une médiation concrète de faire surgir cette question? Alors, cette question dans les entreprises concernées, et ici, il y a des initiatives qui ont été prises depuis plus de 30 ans par la CGT Thalès pour arriver au bout de 30 ans à faire jaillir une petite imagerie médicale dans la région de Grenoble, mais il a fallu 30 ans, mais aussi faire jaillir cette réflexion parmi les mouvements écologistes locaux qui sont dans ces usines et autour. C'est-à-dire que je pense que, je donne cet exemple parce que moi je connais l'armement, hein, je connais moins les questions écologiques, mais je pense que si on prend à bras le corps cette question, on veut pas du militarisme, on veut pas de la destruction de la société par les engins de mort, il faut se tourner vers ces salariés qui sont en attente de quelque chose, je vous l'ai dit, ils disent quelque chose, il faut se tourner vers les salariés et faire effectivement, disons, la médiation entre ce qu'ils ressentent et tout ce que vous avez dit d'extrêmement noble et d'extrêmement séduisant sur le plan d'organisation d'une autre société. Je pense que là, c'est un peu un défi que je lance, disons, au mouvement syndical, au mouvement associatif. Est-ce qu'on va se saisir ou pas du non-militarisme, non pas simplement sous la forme abstraite, non à la guerre ou guerre à la guerre, je ne sais plus, mais sous la forme également concrète, encore une fois, parce que le sujet travail me semble fondamental, de réfléchir à cette question, comment empêcher cette catastrophe sociale et industrielle qui, évidemment, deviendra une catastrophe écologique. Bon, c'est une question même pour qu'une réflexion.
Vous voulez répondre
Je suis complètement d'accord.
Oui, moi aussi. La question est d'ailleurs, on peut généraliser ta question, c'est-à-dire que
partout sur les lieux de travail, il y a sans doute des gens qui se disent on est en train de faire, pardonnez-moi l'expression, mais elle a été utilisée hier soir et abondamment, un boulot de merde, hein, et avec des moyens de merde, pour des résultats de merde. Je ne reprendrai pas toute la litanie d'hier soir. Alors qu'on aurait la possibilité de produire des choses utiles, nobles, qui peuvent servir à tout le monde, qui peuvent nous faire mener une bonne vie, une vie digne, une vie digne d'être vécue et dont on puisse être fier. Je dirais, c'est général. Ça concerne.
Aujourd'hui, tu as concentré autour des dépenses militaires la façon de pas tomber dans la généralité pour la prendre à bras le corps. C'est-à-dire, on nous prépare un plan social qui va être justifié par les dépenses militaires. Est-ce qu'on est capable de relier ce combat politique contre le gouvernement à cette question sociale telle que j'ai abordée? C'est pas un problème général, c'est un problème qu'on peut saisir à bras le corps.
Absolument.
Mais il faut être convaincu de ce que signifie le combat contre le militarisme, c'est-à-dire effectivement ne pas accepter que quand même il y ait une France qui soit souveraine.
Mais en même temps, ça devrait être moyen d'amener les producteurs, les travailleurs, à s'interroger sur ce qu'ils produisent. C'est-à-dire, c'est assez désespérant d'entendre un syndicaliste dire « c'était ça le chômage ». C'est-à-dire, c'est dire à quel degré, je dirais, le rapport de force est dégradé, que de contraindre les gens, parce qu'évidemment, probablement, ils n'ont pas du tout envie de produire des bombes dans cette fonderie, ou des éléments qui permettront de produire des bombes ou des obus, etc., etc. Mais ils vont le faire parce que c'est le seul moyen de gagner leur vie. Je dirais donc, d'accord avec toi, Claude, pour dire c'est l'occasion de se dire on refuse ce plan-là et on met en face de ça la théorie, la litanie des besoins sociaux non satisfaits. On est dans une société qui reste structurellement incapable de produire des logements de qualité, des logements sociaux de qualité. Non seulement quantitativement, il faudrait produire en gros 500 000 logements en France pour faire face à la demande existante. On en produit bon an, mal an 120 000 à 180 000 sur les années, c'est-à-dire que la crise du logement perdure et s'aggrave. Et comment fait-on pour faire face à la nécessité de porter les logements existants, parce que là, j'évoquais les logements à construire, c'est les logements neufs, mais les logements existants, aux normes écologiques, d'isolation thermique, d'isolation phonique, etc., etc., qui sont requises. Voilà un chantier qui est absolument énorme. Et dire, mais plutôt que de sacrifier tout à cette œuvre mortifère qu'est la course aux armements, sacrifions tous ces fonds à ces œuvres de vie. J'ai pris l'exemple du logement, mais je prendrai l'exemple de la santé, je prendrai l'exemple de l'éducation. Enfin, les besoins sociaux non satisfaits, médiocrement satisfaits, piètrement satisfaits, comme on voudra dire, en un pays en principe capitaliste développé comme le nôtre, sont immenses. C'est considérable. Pour prendre l'exemple des besoins en matière d'accueil de la petite enfance, des besoins en matière de prise en charge des personnes dépendantes à tout âge, parce qu'on peut être dépendant à tout âge, pas seulement en étant en fin de vie, etc. etc. C'est un chantier immense. C'est ça que j'ai voulu dire, Claude, en disant que le problème est général. C'est-à-dire qu'il faut que partout où que l'on travaille, on pose ce type de questions. Mais à quoi fait-on servir notre force de travail? Tous les jours, nous travaillons. Mais pourquoi et pour qui travaillons-nous? Et on ne veut plus travailler pour ceux pourquoi on nous fait travailler, mais surtout pour ceux pour qui on nous fait travailler. On veut travailler pour nous, c'est-à-dire pour le bien commun, et on s'en donne les moyens.
Oui, bonjour à tous. Je vais donner l'exemple, par exemple, de l'agriculture. Voilà.
L'agriculture, c'est au niveau mondial, c'est la majorité de la population, des travailleurs. Or, l'agriculture, il suffirait de, si l'agriculture changeait de braquet, ça pourrait permettre de limiter le réchauffement climatique, créer des emplois par million et nourrir la population sans qu'elle soit malade. Mais aujourd'hui, en plus, l'agriculture aujourd'hui, c'est complètement anti-économique. Aujourd'hui, l'agro-industrie, c'est 10 000 milliards de PIB. Ça coûte 12 000 milliards. Par toutes les externalités négatives. Au niveau de la santé, de la pollution, des maladies professionnelles et autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est. En plus, bon, je pense qu'il faut céder des consommateurs pour réfléchir un peu la direction. Je vais remplacer une porte ouverte. Tu veux la paix? Sors du capitalisme.
D'autres questions? On va prendre trois questions. Le monsieur là qui vient de parler, le jeune homme. Qui...
Vous avez parlé de la crise hydrologique, par rapport. Vous avez parlé du réchauffement de la planète. Alors, est-ce que la crise entre le capitalisme, c'est pas au niveau de la planète pour le monde? Les catastrophes sont mondiales, c'est inéluctable véritablement. Est-ce que c'est pas ce niveau-là qu'il faut agir aujourd'hui?
Et moi, je vais tenter encore un truc sur l'armement parce que je trouve que la question est très importante. J'habite à Grenoble et je ne sais plus exactement le nombre d'entreprises d'armement qu'on a énumérées, mais il y en a au moins 20. Je pense que globalement, personne ne sait. Des fois, même les gens sont dans les entreprises, ils ne savent pas qu'ils bossent pour l'armement, parce que l'armement, c'est souvent pas vraiment des entreprises d'armement, quoi. Elles savent qu'il y a un stigmate de produire des armes, et donc c'est pas ce qu'elles font. Et donc il y a eu des fois des discussions avec des organisations syndicales. Et franchement, le dialogue, il est hyper dur. Mais avec les salariés, il y a eu beaucoup de tractages, notamment en lien avec la Palestine, Caterpillar, vous fournissez des pièces qui servent pour les chars en Israël, par exemple. En fait, il y a quand même le côté, mais on veut pas être au chômage ou je sais pas quoi. Donc c'est pas un problème de. Il y a d'un côté dans la population en général des outils pour déguiser l'armement en autre chose, sachant que énormément d'entreprises chopent de la thune là-dessus, quoi. Et de l'autre côté, les gens qui sont vraiment concernés directement par l'armement, c'est plutôt le bas de la société, si on peut le dire comme ça, qui n'ont pas les moyens. Et j'allais où avec ça? Ah oui, et l'autre angle, c'est donc là, l'armement, ça a énormément de sujets, mais on est un peu dans une phase où la guerre, c'est un peu loin, quoi. Et puis on nous fait le miroiter aussi la peur de la guerre, que genre ça pourrait arriver chez nous. Mais dans le fond, dans le fascisme, il y a aussi la guerre des peuples, des États contre leur propre peuple, quoi. Et donc un autre truc où je comprends pas pourquoi ça part pas, c'est que nos élus écologistes et communistes là autour de Grenoble, ils ont lancé un projet de commissariat et même jusqu'à extrême gauche. Globalement, ça prend pas, quoi. Les affects des militants, on met ça sur la table et juste, il y a personne pour s'en emparer. Et je pense que c'est qu'il y a un travail aussi dans la société qui est produite, c'est-à-dire de peur, il faut plus de sécurité. Et alors que le continuum, il est direct, quoi. Mais voilà. Donc, je sais pas comment. Ouais. comment on fait pour se mobiliser, quoi, de trouver l'énergie ou le, je sais pas, que ça nous parle, quoi, d'un coup, qu'on fasse le lien, que quand on, quand il y a des budgets de la guerre qui sont annoncés à la télé, bah en fait, c'est aussi pour nous mater dans les manifestations l'année prochaine ou quand ils auront décidé, quoi.
Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est des questions très importantes. Et moi, ça me fait penser aussi aux difficultés qu'on peut avoir quand on milite à prendre en compte la situation réelle des gens. Parce qu'on parlait de questions concrètes. Quelqu'un qui dit, moi, c'est mon travail. Il faut l'entendre, plus que l'entendre, bien évidemment. Enfin, et ça suppose aussi, par rapport à ces questions de l'armement, de ne pas procéder par la culpabilisation des salariés. Parce que alors là, c'est la voie, à mon avis, la pire. Mais en revanche, poser la question... Comme tu l'as fait, comme le fait Claude, en montrant aussi quels sont les enjeux de cela, quels sont les la soi-disant dans ton bouquin une des choses qui m'a énormément frappée, Claude, c'est la manière dont tu montres que ce discours de l'industrie de l'armement comme étant le fleuron de la France est un pur mensonge et couvre en fait une désindustrialisation générale que l'armement ne compense absolument pas. Donc il y a toutes ces questions et c'est vrai que c'est un condensé là de tous les problèmes auxquels on peut s'affronter aujourd'hui. Ça suppose d'avoir sur le terrain des stratégies un peu fines pour discuter avec les gens, prendre en compte ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, voilà, faire jouer les contradictions aussi et aborder la question dans toute son ampleur, la question de la dimension internationale. On l'a pas abordé, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, hein, mais bien sûr c'est tout à fait essentiel. Mais pareil, comment on construit quelque chose en partant pas du haut, mais en partant de formes fédérées? Il y a eu des tentatives, hein, de faire des grèves à l'échelle du monde. Voilà, bon, c'est compliqué d'organiser, de synchroniser tout ça. Effectivement, on peut pas imaginer sortir du capitalisme localement, ça c'est sûr. Après, comment on fait? Avoir en tête que cette dimension internationale et internationaliste, elle est une des composantes majeures de la gauche, je crois que c'est très important et que partie de nos courants l'ont oublié. Ça, je suis bien d'accord. Et de le remettre au premier plan, oui. Et sur la question de l'armement et de la guerre, c'est vraiment très important, hein. C'est vrai que l'usage des armes en lien avec la montée des fascismes, donc des nationalismes, et puis l'utilisation... Il a l'espèce de continuum entre répression des mouvements sociaux et guerre tous azimuts. Bon, c'est une évidence. Ça suppose aussi un travail théorique de conscientisation sans faire la morale aux gens. Ça, je crois que c'est un boulot qu'on ne peut faire que sur le terrain, quoi, de manière attentive à ce que sont les gens auxquels on s'adresse.
Je voudrais revenir quand même sur ce que vous avez dit là concernant l'agriculture. Je crois qu'en effet, c'est. Je pense que c'est aussi un défi que nous avons à relever et qui n'est pas. Disons qu'il est difficile, qu'il va nous être difficile de relever parce que on a un déficit de réflexion et ça ne date pas d'hier ni même d'avant-hier. C'est quelque chose qui est structurel depuis sans doute l'origine du mouvement socialiste en Europe. Un déficit de réflexion sur ce qu'on appelait classiquement la question agraire. Et je crois que cette question agraire, elle va redevenir centrale du fait précisément qu'elle est à l'entrecroisement direct de la question écologique et de la question sociale. Et question écologique parce qu'évidemment elle est impactée, l'agriculture est impactée directement par la catastrophe écologique de par ses effets, mais aussi de par les causes. Elle est elle-même, je dirais, l'agro business est un des facteurs de cette catastrophe écologique. Donc la nécessité de réformer, transformer, de révolutionner en profondeur les pratiques agricoles. Ça fait partie intégralement du programme d'une transition éco-socialiste. Et c'est en même temps au cœur de la question sociale, parce que, encore une fois, je l'ai signalé tout à l'heure, je suis intimement convaincu que autant il va falloir supprimer, Dieu merci, toute une série de secteurs qui sont des secteurs socialement, écologiquement nuisibles ou inutiles, et on gagnera en économie, je crois que révolutionner en profondeur le secteur agricole, ça signifie remettre à jour des modes de production agricole qui sont, encore une fois, beaucoup moins intensifs en travail mort, c'est-à-dire en moyen de production mécanique, automatique, etc., etc., et beaucoup plus en travail vivant. Pour pratiquer un peu le jardinage, si on veut se dispenser d'utiliser, par exemple, des pesticides, des herbicides en l'occurrence, pour désherber, il n'y a que le sarclage et l'arrachage à la main. Hein. Et ça, ça demande du temps. C'est-à-dire, c'est du temps de travail au sens le plus immédiat du terme. Et pour ça, il faut des bras, il faut des heures de travail, il faut des bras, etc. En même temps qu'on rejoint une problématique qui est celle du dépassement de la division et de la séparation, de la hiérarchisation entre ville et campagne, etc. Et la promotion peut-être de modes de vie globalement moins désastreux que ceux que l'on mène. Oui, par exemple.
On avait dit qu'il n'y avait plus de questions. C'est une question assez concise dans le prolongement de ce que vous dites. Certains prétendent qu'avec la réduction de la disponibilité des énergies fossiles, il va y avoir un tel besoin de travail supplémentaire en agricole, aussi en industrie, et on pourrait ajouter la santé, que malgré tout le travail inutile qu'on pouvait supprimer, il n'y aurait pas vraiment une perspective de réduction du temps de travail globalement possible. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je n'ai pas de données à la matière, donc je peux pas vous répondre par oui ou par non. C'est vrai que il est possible peut-être que si on fait le bilan de tout le travail que l'on peut supprimer et que tout le travail que l'on doit créer pour rester. Quand vous dites la perspective de déficit, de manque d'énergie fossile, il faut bien s'entendre. Du charbon et du pétrole, on en a à revendre, mais évidemment, il faut le laisser sous terre. C'est bien de ça dont il s'agit. Hein. C'est pas qu'on va manquer, on risque pas de manquer demain ou dans les décennies ou même dans les décennies à venir de matière fossile. C'est qu'il faut prendre la décision de se passer des fossiles en question. Alors, effectivement, la question qui est ici posée, c'est celle de l'énergie. Et si on est en déficit il y a des énergies alternatives, des énergies renouvelables, mais elles posent elles-mêmes toute une série de problèmes qui sont mal maîtrisés par le mouvement écologique qui promeut les énergies fossiles sans se rendre compte que l'obstacle de ce point de vue-là, il est également un obstacle matériel, et c'est les métaux. C'est-à-dire, si on voulait remplacer, on voulait porter les énergies dites renouvelables, parce que, petite parenthèse, une énergie renouvelable, ça n'existe pas. C'est des sources d'énergie qui sont renouvelables. Une énergie renouvelable, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas brûler deux fois un kilo de charbon, vous ne pouvez pas consommer deux fois le même kilowattheure d'électricité. Donc il n'y a pas d'énergie renouvelable. Il y a des sources d'énergie renouvelable. Si vous voulez porter l'exploitation des sources d'énergie renouvelable au niveau de production et de consommation d'énergie que permet aujourd'hui les énergies fossiles, dont je rappelle qu'au niveau mondial, ça représente encore un peu plus des 4/5 de l'énergie. Plus de 4/5 de l'énergie primaire produite et consommée dans le monde, c'est fondue par le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Si on y ajoute la biomasse, parce que le problème de la biomasse, c'est aussi une énergie qui est polluante, pas de la même manière, puisqu'en principe, on rejette dans l'atmosphère ce qu'on a retiré comme gaz carbonique. Ça fait 9/10. Consommer autant d'énergie en la produisant uniquement par des énergies dites renouvelables, le stock connu aujourd'hui de métaux enfouis dans le sol et le sous-sol n'y suffirait pas. Donc ce serait tomber de Charybde en Scylla de vouloir passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables comme le propose la plupart des solutions dites écologiques. Donc ça signifie qu'on va falloir de revenir à des modes de production d'énergie et de production et de consommation. De toute façon, l'énergie que l'on produit, il faut la consommer. Et généralement, on la consomme dans le moment où on la produit. On peut aussi la stocker, mais c'est difficile, enfin bref, etc. Se revenir à des formes de production d'énergie, enfin, qu'on connaît tous, mais dont on a peine à imaginer que c'est ce que c'est là qu'il faille se tourner. C'est-à-dire, par exemple, l'énergie motrice humaine, l'énergie motrice animale, etc., etc., qui sont des choses qui n'ont pas disparu, hein, mais auxquelles il va falloir peut-être revenir. Alors, c'est bien possible que peut-être qu'on va manquer de bras. Si on veut se passer de charbon, de pétrole, de gaz naturel, et si on ne veut pas se plonger à fond dans les énergies dites renouvelables, parce que ce serait une catastrophe écologique de grande ampleur également que de vouloir extraire tous les métaux qu'il faudrait extraire pour cela, il va falloir peut-être effectivement revenir aux bras. Et il est possible qu'on manque de bras. Je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs, je n'ai jamais rien lu à ce sujet, mais la perspective ne me paraît pas fantaisiste a priori, je dirais. Et ça fait partie des problèmes qu'une planification éco-socialiste démocratique aura à se poser, c'est-à-dire d'arbitrer entre... Et sans doute, il faudra faire des choix, c'est-à-dire, voilà, c'est sans doute, effectivement, prioriser certaines dépenses par rapport à d'autres, en remettre d'autres à venir, etc. Ça fait partie de ces questions-là. Mais pour arriver à se poser ces questions-là, il est évident qu'il faut d'abord se poser les questions que Claude signalait à propos de l'armement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec l'appareil industriel tel qu'il existe ici et maintenant? Comment est-ce qu'on le reconvertit? Comment est-ce qu'on le transforme, etc.
Moi, je voudrais ajouter un mot, hein, le privilège de l'animateur CRHA. Je pense que c'est pas vraiment la question, excuse-moi Alain, de savoir ce qu'on fera quand on pourra le faire par nous-mêmes, c'est-à-dire quand on sera maître de l'avenir. Là, tout ce qu'on discute, tout ce que discutent par exemple les sphères, on va dire schématiquement écologistes, c'est comment on peut mieux faire dans le cadre actuel. Mais le cadre actuel, c'est le capitalisme, et comme l'ont démontré Isabelle comme Alain, c'est quelque chose qui va... de crise en crise et qui cherche de plus en plus à produire et qui, quand il peut plus produire, fait une guerre. Schématiquement, c'est ça le marxisme dans ce domaine-là, hein. Produit, hein, le vampire qui mange toujours plus, toujours plus, toujours plus, et au bout d'un moment, ça explose parce qu'il n'y a plus rien à manger. Voilà. Donc la solution, pour moi, quand on se pose la question, c'est pas de se dire comment je vais faire quand j'aurai pris le pouvoir. Moi, je suis un militant syndical. Chaque fois qu'il y a un mouvement social, et vous avez dû en vivre, on est plein d'idées, et en plus, on est plein de bras. C'est-à-dire que si on décide de faire quelque chose, on y arrive. Hein, qu'est-ce qui peut nous empêcher? Manquer d'argent, la répression, et éventuellement la division, notamment politique, en nos seins. Voilà, c'est tout. Mais les forces, on les a. Et moi, j'ai confiance, si demain, il y avait une prise de pouvoir, on va dire, hein, des gens travailleurs, c'est-à-dire des agriculteurs, des paysans, enfin, des paysans, c'est la même chose, des ouvriers, des employés, des choses comme ça, des gens qui font société, des indispensables, comme on dit, eh ben, je pense qu'on y arriverait. Hein. On aurait les forces, on aurait les intellectuels nécessaires, on aurait tout ce qu'il faut, y compris les ingénieurs, on aurait tout ce qu'il faut pour le faire. La question, elle n'est pas là. La question, c'est comment on passe du militant syndical qui va se battre pour ses 35 heures ou pour avoir un poste de plus ou pour éviter qu'on le licencie, un phénomène collectif qui remet en cause le système, qui cherche le pieu pour le mettre quelque part. Comment on passe du militant écologique, et c'est un peu ça pour moi, normalement le thème de cette conférence, comment l'écologiste qui se bat pour une bassine, c'est raisonnable, moi je comprends. On va faire une bassine à côté de chez lui, là, au Revard, à la Clusaz. Les gens se sont battus, ça fait une belle mobilisation. La bassine, je crois, elle a pas eu lieu. Il y en a une autre ou deux autres qui se sont créés à côté. Hein? On a gagné un emploi à la poste quand j'étais postier. Il y en a cinq autres qui ont disparu ailleurs. Justement, c'est le même problème que l'international tout à l'heure, parce que vous avez le même phénomène à l'international. On va peut-être gagner un petit peu en France, mais ça va perdre ailleurs. Ça va perdre, je sais pas, en Ukraine, ça va perdre en Allemagne, ça, voilà. Donc c'est bien la question de comment on transforme une lutte syndicale, même une petite lutte, une lutte écologique, une lutte féminine, féministes, pardon, des luttes de ce type-là, comment on les fait passer au niveau au-dessus et sur quelle force on s'appuie? Voilà. Moi, c'est ça l'idée. Comment on fait pour basculer, pour chercher le pieu, comme disait Alain, comme disait Marx, comment on fait? Voilà. Parce qu'autrement, de toute façon, si on réussit pas à trouver le pieu, c'est la barbarie qui nous attend. Elle est prévue. Engels, hein, Rosa Luxembourg, Castoriadis dans sa bonne période, avant qu'il devienne psychanalyste, socialisme ou barbarie. Voilà, hein. C'est ça le truc. Si on fait pas ça, c'est ça qui arrive. Alors après, les questions que se doivent poser les militants sincères, ceux qui sont pas simplement dans l'affect, c'est de dire comment je peux faire pour transformer ça. Voilà. Pour être quelqu'un qui va participer au mouvement. Donc, il y en a qui disent c'est l'ENFP, il y en a d'autres qui disent c'est l'NPA. Je crois qu'il est venu faire son intervention, puis après il est parti. Des choses comme ça. Voilà. Ouais, je tape un peu parce que j'aime pas trop quand les gens ils viennent utiliser le truc, puis après ils se barrent, hein. C'est ça. S'ils restent, oui, sinon non. Voilà. Donc c'est ça la question. C'est ça qui, comment on fait pour attraper le pieu? Voilà. Ouais.